Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous. Et haut les cœurs hein, en écoutant votre équipe et sauvage. Cela fait du bien, tant de bien en ce moment. On vous retrouve demain, évidemment, avec plaisir d'ailleurs, dès 16h. Très belle soirée Mathieu.
Europe 1, 18h-20h, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie particulièrement de vous retrouver ce soir à mon tour, et oui, de vous présenter ce grand journal du soir depuis chez moi, mon domicile, grâce au travail exceptionnel des techniciens d'Europe 1. Nous nous adaptons, vous l'avez compris, nous sommes à vos côtés pour vous informer pendant cette crise sanitaire. Le 39-21 pour toutes vos questions, vos témoignages, c'est durant ces deux heures. Et puis le hashtag radio ouverte sur les réseaux sociaux. On vous accompagne, on vous informe au plus près ce soir, on vous écoute, on vous attend. Dans un instant, votre journal Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité, des patients évacués de Mulhouse par l'armée vers Toulon et Marseille. Nous serons sur place dans un instant. 18h20, train, avion, bus, métro. La France réduit fortement le trafic dans les transports. Le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari sera en ligne avec moi dans 20 minutes précisément pour nous donner les pourcentages restants finalement sur les lignes et dans les airs. 18h30, les grandes voies. Elles sont au rendez-vous, confinées, mais bien sûr là, informé pour vous préciser tout ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis à 19h30, avec nos correspondants locaux, on va rendre hommage à cette France solidaire, à cette France qui innove et qui trouve, oui, des solutions dans ce moment si particulier et si pénible pour certains. Et puis vous pourrez encore interroger le docteur Ginny Mohamed qui sera avec nous jusqu'à 20h. Toutes les équipes restent, vous l'avez compris, mobilisées à distance, mais sont sur le pont avec conviction pour vous informer jusqu'à 20h.
Écoutez Europe 1, il est 18h.
Nous libérons 16 places de réanimation et sur ces 16 places, 80% sont d'ores et déjà occupées par des patients que nous avons admis depuis hier.
Delhi, à peine libéré, vous venez de l'entendre, est déjà occupé. Les premiers patients transférés des hôpitaux du Grand Est vers ceux du sud de la France, c'est l'armée qui s'en charge. Trier les malades en fonction de leur état de santé, c'est une hypothèse de plus en plus envisagée. Les médecins ont désormais un code de conduite, c'est ce que nous expliquera Virginie Salmen. L'hôpital qui recrute à Marseille en recherche d'urgence des infirmières et des infirmiers pour les services de réanimation. Confinement, jour 2, cette fois les policiers ne plaisantent plus, les contrôles se durcissent.
Bonjour monsieur, vous avez un papier sur vous pour sortir?
Non mais je vais juste là à 30 secondes.
Il faut le papier, hein, parce que le risque c'est 135€ l'amende.
Chez Amazon, les salariés ne veulent plus aller travailler. Bras de fer avec la direction, ils font valoir le danger grave et imminent auquel ils sont exposés. Ce soir, le directeur général de l'OMS qualifie le Covid-19 d'ennemi de l'humanité. En plus de toute l'actualité du jour, on sera bien sûr, comme chaque soir, avec le docteur Ginny Mohamed qui répondra à vos questions au 39-21 ou bien sur le hashtag Radio Ouverte. La Bourse de Paris a terminé ce soir en fort recul, moins 5,94% à 3755 points. Dans le sillage des autres places européennes, les échanges ont également une nouvelle fois été suspendus à Wall Street, tout comme à Sao Paulo.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Heureuse d'entendre votre voix et peut-être aussi la belle couleur du ciel demain.
Oui, effectivement, c'est encore une belle journée qui s'annonce demain. On est parti quand même sur de nombreuses belles journées. Là, on est parti sur plus de 10 jours sous le soleil. Demain, il y aura un petit peu plus de nuages au nord. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
Des moyens militaires sans précédent déployés contre le coronavirus, donc moyens réservés jusqu'à présent, Isabelle, aux zones de conflit.
Et oui, afin de soulager des hôpitaux alsaciens saturés, des avions de l'armée de l'air ont commencé à évacuer les premiers patients de Mulhouse vers le sud de la France. Bonsoir Arthur Elbaché.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans l'Est, en direct. L'Est où cette opération, Arthur, va faire beaucoup de bien aux hôpitaux locaux.
Alors cette intervention de l'armée, ça soulage évidemment Mulhouse et Colmar. 4 places libérées à Mulhouse, 2 à Colmar. Il y a aussi eu 9 évacuations par hélicoptère civil hier. Ça soulage même si, vous allez l'entendre, les lits libérés sont très vite occupés par de nouveaux malades, dit le chef des urgences de Mulhouse, Marc Noiset.
Alors en réanimation, ils sont pas tous pleins, mais malheureusement, nous sommes une fois de plus rattrapés par l'activité. Je crois que à l'heure qu'il est sur Mulhouse, il ne reste plus que 2 lits de réanimation.
Mais, précise le médecin, on n'en est pas, même à Mulhouse, épicentre de l'épidémie en France, on n'en est pas, dit-il, contrairement à ce qui se lit sur les réseaux sociaux, on n'en est pas à faire le tri en accueil et en soigne, dit-il, tous les patients qui se présentent.
Arthur, est-ce qu'il y aura d'autres évacuations militaires comme celle de ce midi ?
Alors, pas dans l'immédiat, peut-être, ça discute entre les ministères de la Santé et de la Défense. Les soignants, ce que je peux vous dire, c'est que les soignants ont constaté aujourd'hui qu'une opération comme ça, ça soulage, mais c'est très lourd. Ça prend au moins 5 heures, 6 patients, ça veut dire 6 équipages complets mobilisés, bloqués, le transport, l'installation dans l'avion militaire, le retour à l'hôpital, etc. D'où l'intérêt de l'autre opération, l'hôpital de campagne à Mulhouse, accolé au CHU. Même si on apprend cet après-midi que ça va prendre pas mal de temps. En fait, les équipes de soignants mulhousiens espèrent voir arriver les tentes, les 30 lits de réanimation, les médecins militaires, les respirateurs le 27 mars, dans 10 jours. Une source militaire nous indique ce soir que ce sera sans doute prêt un peu avant.
Merci beaucoup, on l'espère en tout cas. Merci Arthur Elbachet, correspondant d'Europe 1 dans l'Est. Emmanuel Macron a rendu visite ce matin aux soignants de l'hôpital Avicenne de Bobigny en région parisienne afin de les assurer du soutien de l'État. Visite sans médias dans le strict respect des consignes de sécurité. Le chef de l'État qui a ensuite présidé cet après-midi un conseil des ministres exceptionnel. Le gouvernement va demander au Parlement les moyens de faire face à l'urgence. Et puis Édouard Philippe est par ailleurs revenu sur les municipales. Le second tour aura lieu au mois de juin, sous réserve bien sûr que l'épidémie ait été suffisamment contenue à ce moment-là. On y reviendra tout à l'heure dans notre journal de 19h. Et parmi les questions qui reviennent régulièrement, on l'évoquait d'ailleurs il y a un instant avec Arthur Elbachet, les soignants français vont-ils être amenés à trier leurs malades et à privilégier ceux qui ont le plus de chances de survie, disons les choses telles qu'elles sont. Virginie Salmen, une hypothèse est clairement envisagée. D'ailleurs, la Direction Générale de la Santé a même commandé un rapport sur le sujet. C'est une information de nos confrères du journal Le Monde, Virginie.
Oui, alors c'est un document pour guider les médecins réanimateurs, les doter de règles tangibles, écrites, s'ils venaient à être débordés de patients. Alors, dans les grands hôpitaux, la question de savoir s'il faut réanimer un patient en fonction de son état de santé se pose régulièrement. Ils sont rodés, si je puis dire, mais là, avec un grand nombre de patients, des médecins de petits hôpitaux ou de cliniques pourraient être amenés à prendre de telles décisions. Voilà pourquoi on anticipe et il est nécessaire d'écrire noir sur blanc des règles claires. Parmi les outils, il y a ce qu'on appelle un score de fragilité du patient. C'est une échelle qui va de 1 à 9. 1, c'est quelqu'un de très en forme. 9, c'est quelqu'un qui avait une espérance de vie de moins de 6 mois avant d'être infecté par le Covid-19, un cancer en phase terminale, par exemple. Donc, les médecins évaluent en réunion, dans l'urgence forcément, quel malade a le plus de chances de bien réagir à la réanimation ou au contraire, de ne pas supporter l'agressivité d'une réanimation, évaluer les espoirs de la personne. Dans ce score de fragilité, il n'y a donc pas que l'âge qui est pris en compte, loin de là. Est-ce que le patient est autonome, alité en permanence ? Voilà le type de critère. Attention, ce document ne fixe pas de seuil. On ne dit pas à partir de 8, il ne faut plus réanimer. Ça reste la décision du médecin de réanimation plus le médecin des urgences, avec si possible un infirmier. C'est une décision collégiale dans le respect de la loi de 2016 sur la fin de vie.
Merci beaucoup Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Et pour éviter ce scénario du pire et préparer tout de même la deuxième vague qui est annoncée, les hôpitaux font appel à toutes les bonnes volontés. L'assistance publique des hôpitaux de Marseille vient ainsi de lancer sur les réseaux sociaux une campagne pour recruter des infirmières et des infirmiers. Nathalie Chevance, le maître mot, c'est anticiper.
Et oui, se tenir prêt face à un afflux de patients contaminés, ce qui n'est pas encore le cas ici dans la région sud, mais les autorités le savent, c'est une question de jours. Et pour relever le personnel en première ligne qui peut aussi tomber malade, il y a déjà au moins 5 cas de Covid-19 au sein de la PHM, c'est donc un appel urgent au recrutement de dizaines d'infirmiers diplômés d'État, surtout pour la réanimation et disponibles immédiatement, qui est lancé. L'objectif, c'est aussi d'avoir suffisamment de personnel lorsque tous les lits seront occupés, notamment dans les services qui était fermé jusque-là, une anticipation de la crise au sein des hôpitaux marseillais, saluée par Éric Auduit de la Coordination nationale infirmière.
Ah, c'est très important, c'est très urgent. On voit dans quelles difficultés sont les personnels des hôpitaux du Grand Est. Donc on peut anticiper et on a le temps d'anticiper par rapport aux expériences des autres hôpitaux qui malheureusement n'ont pas eu ce temps. Beaucoup de candidats appellent, beaucoup de solidarité de toutes parts. Il y a même des infirmières libérales qui proposent de suspendre leur activité un temps pour pouvoir venir travailler à la PHM pour proposer leurs services. Ça sera nécessaire.
Voilà, et les premiers candidats ont déjà été sélectionnés. Les formations pour la réanimation ont débuté.
Les précisions de Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Notez qu'on a appris cet après-midi que la Chine allait envoyer plus de 2 millions de masques de protection à l'Union européenne.
Et par ailleurs, Isabelle, depuis ce matin, eh bien, le montant de l'amende en cas de non-respect du confinement est passé. Nous étions prévenus de 38 euros à 135 euros. Fini, hein, fini la pédagogie. Place désormais à la répression.
Et oui, ça y est, 100 000 policiers et gendarmes sont déployés dans tout le pays pour faire respecter ces consignes. Plusieurs centaines de personnes, d'ailleurs, ont déjà été verbalisées. Et on va partir tout de suite à La Montagne. C'est une petite commune de Loire-Atlantique au sud de Nantes. On va voir comment se passent ces contrôles. Écoutez le reportage sur place de Charles Guyard.
Voilà, on part en patrouille sur la commune, voir si les règles de confinement sont bien respectées notamment.
Il est 14h au volant, Pascal Burel, 45 ans, policier municipal. Direction le petit centre-ville doté d'un city-stade et d'un skate-park. Le site est désormais interdit par arrêté municipal et pourtant...
Voilà, il y a quelqu'un, on va aller voir.
Bonjour, madame, la police municipale. Vous avez un papier pour...
Oui, j'ai un papier.
Donc pour loisir.
Oui, c'est ça, pour me poser.
Mais la règle vaut quand même le confinement. Donc moi, je vais vous inviter à rentrer chez vous.
Un peu plus loin, on croise un jeune homme sur le trottoir. La prévention plutôt que la répression, c'est le credo de Pascal.
Bonjour, monsieur. Vous avez un papier sur vous pour sortir?
Non, mais j'habite juste là, à 30 secondes. Je rentre mon sport.
Hein. Oui, je comprends. Vous avez le droit, mais il faut le papier. Hein, parce que le risque, c'est 135 euros l'amende.
D'accord.
Au final, les contrôles sont plutôt rares, les règles sont globalement respectées et cela a même des effets positifs.
Qui dit confinement, dit moins de trafic, mais tout trafic, que ce soit le trafic de la circulation et potentiellement autre chose.
Les trafics de stupéfiants notamment, et voilà comment la crise du coronavirus pourrait mettre à mal un fléau de plus en plus répandu par ici. La Montagne, Charles Guyard, Europe 1.
Et notez que le ministre de l'Intérieur, hein, Christophe Castaner, sera demain matin l'invité d'Europe 1 entre 8h15 et 8h45. Il répondra aux questions de Mathieu Béliard et de Sonia Mabrouk et à vos questions, celles des auditeurs en effet, d'Europe 1. Ce sera donc à vivre en direct dès 8h15.
Et alors que l'UNESCO indique aujourd'hui que la moitié des écoliers et des étudiants dans le monde sont désormais privés d'établissements scolaires, le ministre français de l'Éducation, lui, croit toujours au maintien des épreuves du brevet et du bac. Et concernant les cours en ligne pour les enfants confinés, il reconnaît des trous dans la raquette, évoquant les bugs que certains d'entre vous, d'entre nous, ont pu connaître. L'absence des salariés sur leur lieu de travail dans les secteurs considérés comme essentiels est préoccupante. Ce matin, le ministre de l'Économie a appelé ses salariés à ne pas déserter leurs entreprises en prenant leurs précautions, bien sûr, pour garantir la sécurité économique du pays. Chez Amazon, ce n'est pas ce qu'on appelle un secteur essentiel, chez Amazon, en tout cas, les salariés inquiets demandent l'arrêt du travail. Ils font valoir leur droit de retrait car ils considèrent que l'entreprise n'a pas pris les mesures suffisantes pour garantir la sécurité du site de Lowin Planck, c'est près de Douai. Écoutez les explications, les précisions d'Alban Duez.
En fait, la pression habituelle qu'il y a chez Amazon continue malgré la crise sanitaire et la peur des gens. Il y a des gens qui pleurent sur leur poste de travail parce qu'ils voudraient ne pas être là, parce qu'ils ont peur de ramener le virus à leur maison, mais qui n'ont pas de solution. On ne peut pas désinfecter les rampes toutes les demi-heures. On ne peut pas désinfecter toutes les caisses avec lesquelles on travaille, qu'on se passe de main en main. On ne peut pas désinfecter tous les talkie-walkie, tous les écrans d'ordinateur, toutes les tables. Ce n'est pas faisable. Pour une boîte qui prône le safety first, la sécurité en premier, je trouve honteux qu'ils ne prennent pas des dispositions pour mettre tout le monde chez soi. Et là, maintenant, ils veulent nous ont proposé une réunion la vendredi pour une augmentation du taux horaire. C'est pas ça qu'on veut. Parce que si on est malade, on aura beau avoir 2 euros de plus, 10 euros de plus à la fin du mois, ça changera pas qu'on sera malade. Je pense que la seule solution, c'est de fermer le site.
Alban Duez du syndicat autonome d'Amazon au micro européen de Lionel Gougelot. Notez que la direction de General Electric à Belfort a suspendu la production jusqu'à nouvel ordre après que 250 salariés ont eux aussi exercé leur droit de retrait.
Et notez que le numéro 2 du MEDEF, Patrick Martin, sera l'invité de Rimpin demain matin à 7h40. Encore quelques infos, en bref Isabelle.
Oui, les boulangeries vont pouvoir être ouvertes 7 jours sur 7 désormais grâce à une dérogation du ministère du Travail. Un premier centre d'isolement sanitaire dédié aux sans-abri atteints du coronavirus ouvrira vendredi à Paris. Le ministère de la Culture débloque 22 millions d'euros pour tous les secteurs culturels touchés. Alors que l'on a appris aujourd'hui que le concours de l'Eurovision de la chanson était annulé. Report des 24 heures du d'hébergement prévu en juin, ce sera finalement en septembre. L'Allemagne va doubler le nombre de lits d'assistance respiratoire dans ses hôpitaux et transformer des hôtels et des grandes halles en hôpitaux. L'Allemagne qui suspend le programme d'accueil des réfugiés avec la Turquie. Une première ville confinée au Portugal, la ville d'Ovar. Le président pourrait déclarer dans la soirée l'état d'urgence dans tout le pays. La frontière entre les États-Unis et le Canada est désormais fermée, sauf pour les déplacements non essentiels. Et Donald Trump ordonne la suspension des expulsions et des saisies immobilières. Il annonce également qu'un navire hôpital va être envoyé au large de New York en prévision d'un afflux de patients. On sera aux États-Unis dans le journal de 19h. Et puis l'Iran annonce 147 nouveaux décès. Le nombre de cas de nouveaux coronavirus a augmenté de plus d'un tiers en moins de 24 heures, cette fois en Afrique du Sud, tandis que le Groenland va interrompre tout trafic aérien à destination de l'île. Europe 1, comme tous les jours, bien sûr, à vos côtés pour vous accompagner dans cette crise inédite et pour répondre évidemment à vos questions nombreuses sur ce coronavirus, notamment grâce à vous, docteur Dimi Mohamed. Bonsoir.
Bonsoir Isabelle.
Nos auditeurs sont inquiets. Ils se posent des questions qu'ils nous font parvenir sur le hashtag Radio Ouverte ou bien sur le 3921 et notamment celle-ci de Clément. Est-ce que l'alcool à brûler ou bien le vinaigre blanc sont efficaces pour tuer le virus et pour désinfecter les surfaces ?
Alors, deux choses. C'est vrai qu'on est dans une période où nous n'avons plus de solution hydroalcoolique. Et dans ces cas-là, le lavage des mains au savon suffit. L'alcool peut être une alternative à 70 degrés en ce qui concerne la désinfection des surfaces. Le vinaigre n'est absolument pas recommandé. L'eau de Javel peut faire l'affaire et l'alcool aussi. Néanmoins, soyez prudents puisqu'il peut y avoir des vapeurs qui s'évaporent lorsque vous mettez de l'alcool sur une table et vous pouvez finalement ressentir des désagréments. Mais si vous n'avez que ça sous la main et qu'il y a une urgence à désinfecter une surface, l'alcool oui, le vinaigre est déconseillé.
L'alcool oui, merci en tout cas pour ces précisions importantes. Hein, Dimi et Mohamed, docteur Dimi et Mohamed que l'on retrouve notamment tout à l'heure à 19h30 et bien sûr les matins avec Mathieu Béliard et évidemment aux côtés de Mélanie Gomez dans son rendez-vous tous les jours à 15h.
Merci Isabelle Millet. On vous retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal complet. La météo d'Anissa, demain, la journée commence sous les nuages. Hein.
Oui, effectivement, Nathalie, nous aurons, comme ce matin, des brouillards matinaux qui seront assez nombreux demain matin sur quasiment tout le pays. Ils seront un peu plus intenses sur l'est et le sud-ouest, avec même sur le golfe du Lion des entrées maritimes. Et puis, au fil des heures, tous ces nuages, tous ces brouillards, ils vont se dissiper pour laisser place à un grand, beau et franc soleil. Alors, au nord de la Loire, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, en passant par la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne, le Nivernais, la Bourgogne, la Lorraine, là, le ciel sera un petit peu plus nuageux. Et au sud de la Loire, là, pour vous, c'est une journée très ensoleillée. Avec attention sur les reliefs des Alpes et du Massif central, quelques petites gouttes qui sont attendues, mais c'est en altitude. Rassurez-vous, vous vivez en plaine, vous n'aurez pas d'eau demain. Les températures, 3 à 8 degrés en moyenne demain matin sur l'ensemble de la France, jusqu'à 11 au bord de l'Atlantique et au bord de la Méditerranée. Puis demain après-midi, ce sont quasiment les mêmes températures qu'aujourd'hui. 10 degrés à Dunkerque, 12 à Cherbourg, 15 à Brest, 19 à Marseille et Paris et jusqu'à 23 degrés à Brive-la-Gaillarde. Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, c'est avec vous, Nathalie Lévy, et avec votre invité dans un instant.
Ah oui, la colère des routiers, les mesures pour fluidifier la logistique, mais aussi le plan pour les prochains jours concernant le trafic aérien, le trafic des trains, des métros. Vous vous posez évidemment beaucoup de questions. Les réponses concrètes du secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, c'est sur Europe 1, en ligne avec moi, dans moins de 2 minutes maintenant.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avion, train, métro, bus, quel sera le plan de transport des prochains jours ? Comment assurer la continuité du transport tout en dissuadant la plupart des Français de se déplacer ? Nathalie Lévy, ce soir vous interrogez le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari.
Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari.
Bonsoir à vous.
Merci d'être en ligne avec nous sur Europe 1. Je voudrais commencer, Jean-Baptiste Djebbari, par deux questions très concrètes pour nos auditeurs aujourd'hui qui sont là, peut-être en train de s'interroger, vont-ils encore pouvoir partir dans leur maison secondaire ou rejoindre leurs proches ? Deux questions très concrètes, très pratiques. Alors qu'il est, les Français entendent que la fréquence des trains va encore être réduite pour limiter la propagation du virus. Quel pourcentage va-t-il rester d'ici la fin de la semaine sur les rails ?
Aujourd'hui, à la RATP et à la SNCF, nous avions environ 50% du trafic et ce trafic est progressivement amené à 30% d'ici à la fin de semaine. Ce sera encore un peu moins sur les trains longue distance parce que, vous l'avez dit, nous voulons réduire la propagation du virus. Donc, on aura moins de TGV et moins d'intercités. On préservera un peu d'Eurostar et de Thalys de la même façon. Et on aura essentiellement une offre autour des trains du quotidien, les RER, les TER, autour de 40-45% et également évidemment des bus, parce qu'il est nécessaire que les Français qui doivent travailler, et ils sont nombreux, puissent le faire dans des bonnes conditions. Et puis nous parlerons peut-être des conditions de sécurité dans les transports publics, si vous le souhaitez.
On y va dans un petit instant. Je reprécise un élément. 30%, vous nous dites, pour les trains à compter de là, les prochaines heures. Ça peut encore baisser ?
Alors nous pensons pour l'instant, nous ne voulons évidemment pas sous-dimensionner l'offre, hein. Ça reviendrait à avoir des gens tassés sur des quais et donc pas avoir de bonnes conditions de sécurité. Donc nous y allons de façon très progressive et nous observons quelle est la demande et comment se transportent les gens de façon très détaillée quotidiennement en lien avec les opérateurs. Donc 30% environ pour la SNCF demain, environ 50% pour la RATP. Mais la semaine prochaine, nous devrions avoir à compter de lundi environ cette offre de 30%. Et je le dis pour l'illustrer, hein, mais par exemple l'offre à la RATP a baissé de quasiment 80%, enfin la demande plutôt, le nombre de voyageurs a baissé de l'ordre de 90% en quelques jours. Donc c'est tout à fait considérable. D'ailleurs, les gens qui prennent le métro le voient bien.
On va aller sur les conditions, évidemment, pour les agents de la RATP, de la SNCF, pour l'intérieur de ces véhicules. Mais d'abord, quels avions, pareil, même question, Jean-Baptiste Djebari, pour les avions, combien de pourcentage, combien vont encore voler ?
Alors aujourd'hui, de la même façon, nous avons encore à peu près un avion sur deux sur le long courrier, et on va dire un avion sur trois sur le moyen courrier. Nous sommes un rendez-vous téléphonique avec Ben Smith, le patron d'Air France KLM, juste après, et nous pensons à compter de la semaine prochaine, garder environ 15 à 20% des vols, essentiellement pour procéder à des vols de rapatriement, ainsi que pour assurer les vols outre-mer, qu'on appelle les vols de continuité territoriale, de manière à ce que, à la fois, les Français, enfin, les métropolitains puissent aller en Outre-mer quand ils y habitent, et que de la même façon, les Domiens, pour le dire comme ça, puissent retourner chez eux. Et ils sont nombreux en France. Nous avons, enfin en métropole, nous avons environ 15 000 Martiniquais et 10 000 Réunionnais qui sont aujourd'hui en métropole et qui auront besoin, la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, de pouvoir repartir. Donc nous allons assurer avec environ 20% du trafic l'ensemble de ces vols, les rapatriements 20%. Et les vols vers les Outre-mer.
Les Outre-mer, 20%, vous nous l'avez dit pour l'aérien. Concernant justement les transports en commun et eh bien, j'allais dire la désinfection obligatoire, qu'en est-il ? Parce que, bien sûr, il y a des personnes chargées de cette désinfection, des personnes, des êtres humains qui sont parents, qui ont des parents eux aussi. Comment sont-ils protégés désormais ?
Alors nous ne pensons d'ailleurs qu'à eux, raison pour laquelle nous prenons un décret demain qui vise à protéger à la fois les usagers des transports en commun et les opérateurs. C'est un décret qui présentera des mesures très très pratiques. On va suspendre la vente à bord des bus par exemple. On oblige à des désinfections qui sont régulières. Je vous le dis, hein, c'est déjà fait, mais nous l'inscrivons dans la loi. Voilà. Et puis nous prenons des mesures très pratiques. Par exemple, quand vous entrez demain dans un bus, vous passerez par la porte arrière, la porte avant sera condamnée et il y aura une rangée vide entre le chauffeur du bus et les usagers derrière, de manière à protéger les uns et les autres. Et donc c'est comme ça, par des mesures très pratiques, que nous voulons sécuriser pour les usagers et pour les opérateurs l'emploi des transports publics.
Voilà ces mesures de sécurité sanitaire. Vous pouvez réquisitionner du personnel si vous manquez de main-d'œuvre ?
Pour l'instant, nous avons la main-d'œuvre nécessaire. Et comme je le disais, nous avons par exemple 50% d'offres de trafic à la RATP, alors que la fréquentation a diminué de quasiment 90%. Donc il n'y a pas de problème de tension aujourd'hui sur les personnels, mais nous suivons cela de très près. Nous menons un dialogue social en lien avec les patrons d'entreprise de manière très soutenue parce qu'il faut répondre aux questions légitimes des salariés, des agents. Et donc ce travail se poursuit en très bonne intelligence. Et je vous remercie d'ailleurs pour m'en donner l'opportunité, à la fois l'ensemble des salariés, des agents des transports publics au sens large, les routiers, les logisticiens, les dockers, les cheminots. Oui, parce qu'ils sont très engagés
routiers,
pour la
s'il vous plaît. Des services publics. Bien sûr, vous avez raison de les saluer et c'est ce qu'on fait aussi beaucoup sur Europe 1. Il y a une question aujourd'hui qui se pose clairement, Jean-Baptiste Djebari, c'est ces routiers qui sont en colère. La colère, elle monte considérablement. En ces temps particulièrement compliqués, cette situation inédite. Ils permettent aux magasins d'être approvisionnés partout en France. Ils sont donc, ces transporteurs routiers, absolument essentiels, mais ils sont aussi à bout, très en colère, parce que privés de toilettes, de douches, de restauration, montrer du doigt aussi d'une certaine manière. Qu'est-ce qui va se passer pour eux dans les prochaines heures, les prochains jours ?
Alors, je vais répondre très précisément, mais d'abord, vous avez raison de rappeler que derrière le paquet de pâtes que vous trouvez dans votre supermarché, il y a des sites de production, il y a évidemment des logisticiens, des manutentionnaires, des transporteurs routiers, et je veux encore une fois les remercier ici. Il est vrai qu'il y a eu effectivement un peu de frottement dans les mesures qui ont été mises en place, et j'ai demandé aujourd'hui, suite aux différents appels que nous avons pu avoir, aux sociétés qui gèrent les autoroutes, de rouvrir évidemment les sanitaires et les douches dans les aires d'autoroute, et de rouvrir les relais routiers, de manière à ce que ceux-ci puissent se restaurer et avoir un repas chaud. Donc tout ça va être fait, ça va mettre quelques heures, mais cela va être fait évidemment. Et puis par ailleurs, nous avions un conseil des ministres des Transports aujourd'hui au niveau européen, et nous travaillons à la facilitation du transport entre les frontières, puisque vous savez que beaucoup de mesures de restriction ont été mises en place, et que notamment pour transporter les produits alimentaires essentiels, agroalimentaires essentiels, nous allons travailler de manière à mettre en place des voies rapides aux frontières et de manière à leur faciliter à eux la vie qui parfois aujourd'hui, en
tout cas
ces derniers jours, sont des plus très
restent vite. Ouvertes pour le transport de marchandises. Hein.
Partout en Europe, partout c'est en essentiel, Europe. Vous savez, c'est d'ailleurs d'une manière générale, il faut que ça reste ouvert pour l'agroalimentaire, mais pour l'industrie aussi, pour les transports. Ça, c'est nos besoins élémentaires. On l'a peut-être oublié parce que tout, finalement, marche très bien en période de paix depuis des décennies. Mais vous voyez bien, quand nous faisons face à une crise de nature exceptionnelle, on voit bien que les besoins élémentaires relèvent sur des flux logistiques qui sont assurés par des êtres humains de façon extrêmement engagée. Et je tiens encore une fois à les saluer. Et nous devons le préserver absolument, raison pour laquelle, évidemment, ceux qui peuvent télétravailler doivent le faire. Mais je le rappelle qu'il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas télétravailler. Ceux-ci, en se levant, doivent aller travailler. Et quand ils rentrent le soir, c'est là qu'ils doivent rester chez eux, sauf quand ils veulent aller prendre un peu l'air, se faire soigner ou faire leurs courses, évidemment.
À proximité directe de leur domicile, évidemment, on le rappelle. Jean-Baptiste Djebari, on parlait des transporteurs routiers. Ces transporteurs routiers, ils sont essentiels pour nous alimenter, bien sûr, pour transporter des denrées alimentaires. On sait aussi qu'aujourd'hui, la contamination, elle peut se faire à travers les cartons, le plastique. Enfin, on a encore du mal, d'ailleurs, à jauger véritablement cette contamination par ce biais-là. Ces camions, pour transporter ces marchandises qui vont être ensuite dans nos appartements, dans nos maisons, comment ça se passe pour ces transporteurs? Ont-ils les moyens de sécuriser cette alimentation, tout ce qui est contenu dans leurs camions?
D'ailleurs, d'abord, on ne le dira jamais assez, mais ce sont ces fameuses mesures barrières qui nous prémunissent tout et tout le temps, c'est-à-dire avoir du gel hydroalcoolique à bord pour se laver les mains avant et après les manipulations. Dans le décret, nous imposons un certain nombre de précautions pour les opérations de chargement et de déchargement, et c'était vraiment l'objet que de sécuriser ces opérations pour les transporteurs routiers. Mais je le redis, ce virus, il ne sera vaincu que par la discipline de chacun, et notamment en appliquant bien ces mesures de barrière, en respectant bien cette distance minimale d'un mètre, parce que les voies de la contamination, maintenant, elles sont bien connues, elles sont liées à la proximité, au fait de toucher des surfaces contaminées, et donc, disciplinons-nous collectivement, et ce sera la meilleure façon d'endiguer la progression de ce virus, et puis d'en sortir plus fort dans peu de temps, parce que après le coronavirus, il faudra que l'économie reparte plus fort, très fort, et que la France soit pleinement au rendez-vous.
Mais ça veut dire, Jean-Baptiste Djebari, très concrètement, qu'ils ont une obligation de désinfecter chaque jour leur rame ou leur camion?
Alors pour
avec des sanctions possibles si ce n'est pas fait?
Alors là, vous parlez des opérateurs de transport public.
Ouais.
Voilà, les transports publics, donc par exemple le bus, nous donnons effectivement la possibilité, en cas de non-respect des règles de désinfection, de suspendre les agréments des opérateurs. Parce que nous pensons que nous devons cette qualité d'hygiène dans les bus pour les opérateurs et pour les usagers. Et donc, nous avons inscrit dans la loi la capacité de sanctionner ceux qui ne le respecteraient pas. Et nous ferons des contrôles parce que nous pensons, et c'est la responsabilité du gouvernement, que nous devons très fortement et encore plus fortement en ce moment que dans des temps plus normaux, assurer la meilleure qualité d'hygiène pour les usagers des transports publics et pour ceux qui, chaque jour, se lèvent pour aller les opérer.
Donc, les sanctions, vous nous dites jusqu'au retrait de l'agrément, c'est ça?
Absolument. Si on imagine qu'un opérateur de car ou de bus ne respecte pas les règles de désinfection, de nettoyage approfondi, alors nous retirons, le ministère des Transports retirera son agrément.
Ouais. À ce stade, Jean-Baptiste Djebari, ces mesures absolument exceptionnelles, inédites, elles sont prévues sur quel terme? Sur le long terme?
Alors, nous apprenons un peu chaque jour, il faut être honnête, avec ce virus, nous mettons en place des mesures assez exceptionnelles. Nous prenons aussi appui sur ce qu'ont fait les Italiens, puisque vous savez qu'ils sont confrontés depuis environ 15 jours d'avance, entre guillemets, et malheureusement sur la situation, mais nous apprenons beaucoup d'eux. J'ai mon homologue ministre des Transports italienne quasiment tous les jours au téléphone, et donc les mesures que nous prenons sont adaptées au modèle français, mais inspirées de ce qui marche bien en Italie. Nous verrons sur la durée et la prolongation de ces mesures. Mais en tout cas, l'urgence, c'est de répondre maintenant à la situation sanitaire tout à fait exceptionnelle et préserver également l'activité économique parce que, vous l'avez dit, tout est imbriqué dans nos systèmes de production. Nous en avons bien besoin, mais tout cela doit être fait sereinement.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État aux Transports. Et vous nous l'avez confirmé ce soir, il n'y aura pas d'arrêt complet des trains, grandes lignes, ni des avions, même si le pourcentage baisse, on est autour de 30 à 40%. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy, on ne perd pas les bonnes habitudes avec dans un instant le débat des grandes voix.
Et oui, confinée, mais présente et bien informée surtout, avec le sourire, la situation dans les hôpitaux, l'état d'urgence. On en parle avec Ève Roger, Emmanuel Duteil et Michaël Darmon. C'est dans un instant sur Europe 1.
Il est 18h30, vous écoutez Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Isabelle Mille.
Et conseil des ministres extraordinaire cet après-midi. La France s'apprête à déclarer l'état d'urgence sanitaire. Quant au municipal, le second tour aura lieu au mois de juin, sous réserve que l'épidémie ait été suffisamment contenue à ce moment-là. Les premières rotations d'avions militaires pour emmener des patients infectés de l'hôpital de Mulhouse, surchargés vers ceux de Toulon et de Marseille. L'armée a par ailleurs commencé à monter un hôpital de campagne à Mulhouse, mais cette installation devrait prendre une dizaine de jours. L'Italie a enregistré un record de décès, 475 morts en 24 heures. Le Royaume-Uni, à son tour, ferme toutes ses écoles jusqu'à nouvel ordre. En France, le calendrier scolaire pourrait être bouleversé. Pas évident que les écoles puissent rouvrir après les vacances de printemps. On ne peut être sûr de rien, dit le ministre de l'Éducation. Depuis ce matin, toute sortie de chez vous non justifiée par une attestation vous coûtera 135 euros d'amende. Déjà des centaines de Français verbalisés. Et si les Français sont fermement priés de rester chez eux, le ministre de l'économie demande aux salariés des secteurs dits essentiels de continuer de venir travailler tant que leurs sites ne seront pas fermés. Les bourses européennes, elles, continuent à plonger en dépit des aides promises. Paris a fortement chuté ce soir, moins 5,94%. Et puis, dernière annonce en date liée à cette pandémie, l'Eurovision qui devait se tenir en mai aux Pays-Bas est annulée et les 24 heures du Mans reportées à septembre.
Merci Isabelle, on vous retrouve à 19h. Ce sera un journal complet avec vous. Anissa, du côté du ciel, ça commence pas terrible demain.
Oui, alors ça commence pas terrible, effectivement, Nathalie, avec des nuages sur la moitié nord et puis même jusque dans le sud, parce que ces nuages, ce sont des brouillards, vous savez, des brumes matinales assez basses, et puis même sur le golfe du Lion, des entrées maritimes. Et puis au fil des heures, jusqu'à la mi-journée à peu près, à partir de midi, ces nuages vont se dissiper assez rapidement pour laisser place au soleil, le soleil qui va briller sur toute la moitié sud de la France. Et puis au nord de la Loire, nous aurons quelques nuages qui viendront voiler ce soleil, mais enfin rien de très inquiétant. Ça sera une belle journée dans l'ensemble. Les températures 3 à 8 en moyenne le matin et jusqu'à 11 degrés au bord de la Méditerranée.
Merci Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et c'est l'heure du débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, des grandes voix à distance, comme nous tous, finalement, depuis chez eux. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Michaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil, chef du service Économie d'Europe 1.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Je suis heureuse de vous retrouver à distance. Je ne vous vois pas, mais on entend le sourire dans la voix, la conviction, l'engagement. On est heureux de vous retrouver. Je vais me tourner vers vous, enfin, si je puis dire, Michaël Darmon, pour démarrer, parce que Isabelle Mier nous le disait il y a quelques secondes à peine, le gouvernement prévoit d'instaurer un état d'urgence sanitaire, un nouveau dispositif qui permettra quoi ? Expliquez-nous ce que cela veut dire précisément.
Eh bien, ça permet de donner un cadre légal et juridique à toutes les mesures donc de restriction, d'interdiction et de mobilisation et de réquisition qui sont faites pour pouvoir donc justement gérer toutes les consignes. Parce qu'on a bien vu que les mesures qui ont été énoncées de façon assez générale par le président de la République, puis ensuite détaillées par donc les ministres concernés, doivent trouver un cadre juridique parce qu'il s'agit bien quand même d'une forme, et c'est le terme qui va être maintenant employé, d'un état d'urgence sanitaire, mais qui oblige à restreindre des libertés publiques. Et cela, comme nous sommes dans une démocratie en France et qu'on ne fait pas n'importe quoi, eh bien tout cela est encadré par un texte qui va être voté donc par les assemblées de façon assez accélérée, dans un format réduit, matin pour cause évidemment de circonstances en termes de présence de parlementaires, mais vendredi normalement, après la navette du Sénat avec le Sénat, eh bien ce texte doit être voté. Il comprend également un volet concernant, et on va bien sûr le détailler, j'imagine, les dispositifs économiques et sociaux. Donc c'est pour encadrer de manière légale l'état d'urgence sanitaire, puisque maintenant les termes sont prononcés, on sentait bien que c'était ce qui était évidemment en route, mais maintenant ça va être légalement et officiellement installé.
Donc là, d'ici la fin de la semaine, hein ?
Oui, d'ici vendredi, d'ici normalement, vendredi. Avec la navette, avec le Sénat. J'ai parlé avec des sénateurs aujourd'hui, ils se sont entendus pour arriver à un vote conforme, ils vont faire quelques remarques, ouais. Mais globalement, il n'y a pas de volonté de bloquer la part du Sénat. On est dans la logique de l'Union nationale et de l'état d'urgence sanitaire qu'il faut légalement encadrer.
Je vais me tourner maintenant vers Ève Roger, décidément, hein, on prend des habitudes, on a du mal à les lâcher. Ève Roger, je voudrais qu'on aille sur un point ce soir qu'on entendait comme ça là déjà depuis plusieurs jours. On se disait non, c'est pas possible, c'est pas la réalité. Le tri des patients, on l'a entendu dans le journal d'Isabelle Millet à 18h, cette question qui se pose en fonction de, bah, voilà, des possibilités que vont avoir les soignants en termes de place, en termes de réanimation, s'imposeront peut-être à eux, effectivement, alors, de choisir qui on doit sauver.
C'est vous l'avez dit, même dans le Grand Est, Arthur Mbaché nous l'a rappelé, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Le tri des patients ne se fait pas encore, on accueille tout le monde et on soigne tout le monde, d'où ce déploiement des dispositifs pour envoyer dans le sud des personnes qui ont besoin de réanimation. Donc effectivement, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on s'y prépare, parce que là, on a entendu ce qui s'est passé en Italie, on s'y prépare et c'est pour ça que la Direction Générale de la Santé a préparé un texte pour essayer d'expliquer aux médecins qui n'ont pas l'habitude de le faire. C'est-à-dire que ça se fait aussi couramment dans tous les grands CHU de France. On sait qu'une personne qui a 80 ans, qui est en phase terminale d'une maladie, ça ne sert à rien de la mettre en réanimation parce qu'elle ne s'en sortira pas vivante. Donc c'est une situation qui existe. Et là, c'est vrai que peut-être des médecins qui n'ont pas l'habitude vont se retrouver face à ces situations avec effectivement cette création. Alors nous, on entend parler de ça pour la première fois, mais je pense que tous les médecins connaissent le score de fragilité entre 1 à 2, 1 à 9, qui permet de savoir si quelqu'un peut sortir vivant et si la réanimation peut être bénéfique à quelqu'un.
Voilà, c'est des choix, évidemment, c'est l'éthique, la philosophie, là, désormais, qui est en question, et c'est évidemment, là aussi, totalement inédit pour les soignants. On va y revenir. Je voudrais faire un tour de table, en quelque sorte, même si je ne sais pas autour de quoi vous êtes installés, là, précisément, les uns les autres. Emmanuel Dutheil.
Voilà. Donc je suis bien autour de la table.
Bien autour de la table, bien assis, bien calé. J'entendais, j'étais avec Jean-Baptiste Djebari tout à l'heure, il y a quelques secondes, en ligne, le secrétaire d'État au transport, Emmanuel Dutheil. On entend la colère des routiers, on voit qu'il va continuer à y avoir du trafic aérien, du trafic train, métro, parce qu'il ne s'agit pas de bloquer non plus les gens. Il y a tout ça avec toute la sécurité qui va avec. Il y a aussi cette sécurité qui se pose, ce droit de retrait aujourd'hui, typiquement, que réclament de plus en plus un certain nombre de salariés dans beaucoup d'entreprises, ben, les livreurs par exemple, et puis chez Amazon aussi.
Oui, il faut voir, il y a deux choses importantes. Ça monte effectivement. Alors déjà, peut-être rappeler ce qu'est le droit de retrait. Oui. Le droit de retrait, c'est quand un salarié, parce que c'est obligatoirement nominatif, ça peut être fait qu'à titre personnel, estime qu'il y a un problème pour sa santé, pour sa sécurité sur son lieu de travail. Il exerce donc ce droit de retrait qui lui permet de ne pas aller légalement au travail. Alors oui, il y en a de plus en plus. En tout cas, il y a de plus en plus de questionnements. Un grand groupe énergétique français m'a dit ça commence un peu à bouillonner, ça bruisse chez nous des inquiétudes, parce que il y a tous les salariés obligés d'aller travailler dans les secteurs dits indispensables. C'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour les stations-service, c'est vrai par exemple pour les péages autoroutiers. On ne l'imagine pas, mais il faut bien quand même quelques personnels pour permettre à ceux qui doivent encore circuler de passer par exemple les barrières des autoroutes. Alors c'est vrai que du côté de ces secteurs, il y a des inquiétudes qui commencent à poindre. On entend deux choses beaucoup monter, notamment ceux qui sont obligés d'aller dans les usines, qui disent « mais c'est bien gentil, nous, on doit travailler dans les usines, on n'a pas de masque, parce que les masques sont réservés pour les personnels hospitaliers. » On entend aussi certains dire bah, « c'est plus facile pour les cadres, eux, ils sont en télétravail, ils sont chez eux, ils sont protégés, ils sont confinés, mais nous, on doit y aller. » Donc ça, c'est vraiment un point, on sent qu'il y a une inquiétude. Après, il faut raison garder. Pour le moment, tous ces secteurs stratégiques, ces secteurs indispensables tournent. La poste tourne à peu près convenablement. Il n'y aura pas de pénurie du côté d'EDF. Vous aurez de l'essence. Mais c'est vrai que, par exemple, rien que sur le secteur de l'essence, on peut prendre un petit exemple. Quelques stations indépendantes vont fermer. elles ne voient plus personne, elles n'ont pas de personnel également qui veulent travailler parce qu'il y a, selon eux des risques à chaque fois qu'ils sont confrontés à un client.
On va revenir sur la question qu'on se posait avec vous, Ève Roger, il y a un petit instant. Pour le moment, la situation liée à l'épidémie est gérable dans la plupart des établissements de santé, mais certains hôpitaux sous tension pourraient peut-être, même rapidement, devoir faire des choix. Et on est en ligne avec vous, Raphaël, depuis Marseille. Bonsoir. Vous êtes médecin réanimateur.
Bonsoir.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, bonsoir.
Merci de nous avoir appelé au 3921 et n'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler nombreux au 3921, hashtag radio ouverte aussi sur Twitter pour nous livrer vos témoignages. Vous, Raphaël, aujourd'hui vous êtes exsangue, on l'imagine aisément. Comment ça se passe dans l'établissement dans lequel vous opérez ?
Alors aujourd'hui, en fait, la situation est différente selon les différentes zones en France. Hein, donc nous, on n'est pas encore dans une situation comme on peut voir dans le Haut-Rhin ou en Île-de-France. Voilà. Donc nous, pour le moment, sur Marseille, on est en mesure d'accueillir des patients en réanimation.
D'accord. Vous êtes en mesure. Et aujourd'hui, il y a cette question que les professionnels de santé se disent, voilà, choisir entre deux patients, je ne peux m'y résoudre. Par exemple, un de vos confrères de la Pitié-Salpêtrière s'inquiète de cette pression qui repose sur les équipes des soignants. Qu'est-ce que vous dites, vous ?
Bah, nous, ce qu'on dit, c'est que là, c'est une situation épidémique, hein, donc que le président de la République a assimilé une situation de guerre. Hein, donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle, dans ce cas-là, une situation de triage où on est obligé de proposer des soins aux patients qui pourront en bénéficier. Voilà. Donc après, nous, on est en tant que réanimateur, ça nous arrive d'être confrontés à cette situation parce que il arrive que les réanimations soient saturées. En dehors des périodes de pandémie comme celle qu'on connaît actuellement.
Vous, juste, pardonnez-moi, Raphaël, mais j'insiste, avec la progression de l'épidémie, pensez-vous devoir choisir, même si vous nous dites qu'aujourd'hui, à Marseille, vous arrivez, vous n'êtes pas comme dans l'Est, totalement étranglé, j'allais dire, vous pensez, vous, devoir choisir dans quelques semaines, peut-être, entre un patient de 15 ans et un de 60 ans ?
C'est difficile de répondre à cette question. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on espère ne pas avoir à le faire. Et l'autre chose qui est certaine, c'est que l'âge en soi n'est pas un critère unique de choix entre deux patients.
C'est ça.
Ouais. Voilà. Il n'y a aucun réanimateur qui choisit juste entre un patient de 15 ans et un patient de 60 ans. Et en fait, toute la montée en puissance là, actuellement du service public, vise à ne pas avoir ces choix à poser. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'on a même transféré là, par avion militaire 6 patients de Mulhouse et Colmar vers les hôpitaux militaires de Toulon et l'Aveyron.
Exactement. Bon, on a vu la situation de Nancy dans le Grand Est et on tire sur place la sonnette d'alarme et pas seulement. Merci beaucoup Raphaël de nous avoir appelé depuis Marseille. Voilà. Médecin réanimateur, on vous souhaite évidemment à vous et à tous les soignants beaucoup de courage et on est évidemment avec vous. Vous êtes essentiel aujourd'hui plus que jamais. Merci à vous. On va se retrouver dans un petit instant. On pourra revenir là-dessus évidemment Ève Roger parce que c'est une vraie question éthique aujourd'hui. Michael Darmon, Emmanuel Vidal, les grandes voix de ce mercredi. À tout de suite.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Le débat des grandes voix jusqu'à 19h avec ce soir à distance depuis chez eux. Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Michael Darmon, éditorialiste, Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et puis toutes vos réactions sur le hashtag Radio Ouverte, évidemment, et au 3921. Et je vous rappelle que tous les bénéfices du 3921 sont reversés à l'Institut Pasteur, Nathalie.
Et les grandes voix, Ève Roger, Emmanuel Dutheil, Michael Darmon. Ève Roger, vous avez entendu hein, depuis Marseille, Raphaël, il y a quelques instants, médecin réanimateur. Oui. Dans le Grand Est, on a tiré la sonnette d'alarme déjà depuis quelques jours. À la date d'aujourd'hui, mercredi 18 mars, il n'y a pour l'instant que quelques points de saturation, notamment dans le Grand Est.
Oui, dans le Haut-Rhin en particulier, c'est là où la situation est la plus tendue, parce qu'en réanimation, il y a à peu près 200 patients, peut-être un peu plus. Et en France, il y en a 700. Donc, vous voyez, il y a un tiers, je ne suis pas très bonne en maths, mais à peu près un tiers qui sont là-bas, dans un seul département. Donc, ça, c'est important. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le comité d'éthique, le comité national d'éthique, a demandé que dans chaque hôpital, chaque structure hospitalière, il y ait un petit regroupement de médecins, peut-être 2 ou 3, pour que chaque situation soit étudiée à plusieurs.
À plusieurs,
pour éviter, justement, que porte sur les épaules d'une seule personne un choix si difficile. Et ça, c'est important. important que chacun qu'on puisse discuter entre soi, entre professionnels de santé, pour savoir quels sont les meilleurs choix, pour soulager aussi la décision individuelle.
Je vais revenir vers vous, Michaël Darmon, maintenant, oui. Parce que il y a des questions aujourd'hui sur les réformes, réformes suspendues, réformes enterrées. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, même peut-être. C'est une espèce de grand brouillard aussi là chez nos dirigeants, alors qu'il est.
Oui, puisque maintenant le propos général, on va dire l'enseigne générale de la vie publique et des politiques publiques, c'est l'état de guerre, l'état d'urgence sanitaire, nous sommes en guerre, et la suspension des réformes, tout est mis de côté, tout est mis de côté pour pouvoir consacrer toutes les énergies, on l'entend bien dans tous les étages de l'exécutif, hein, comme vous le voyez aussi, pour pouvoir lutter contre cette épidémie et mener cette bataille, faire sortir les Français de cette période compliquée. Ce qui veut dire qu'on l'a bien compris que tous les dogmes de rigueur budgétaire, c'est terminé. On ouvre toutes les vannes, tous les robinets sont ouverts. À l'instant même, Bruno Le Maire a annoncé le déplafonnement du chômage partiel. Et surtout, vous l'avez dit, les réformes suspendues ou enterrées. Tel que l'on regarde maintenant le calendrier et tel que l'on voit la situation politique, imagine-t-on, hein, comme dirait l'autre, imagine-t-on de revenir en juin, juillet, avec le débat des retraites au Sénat, qui s'annonçait être extrêmement difficile, avec une conférence de financement qui devait caler le financement du système des retraites, mais sur des hypothèses de croissance qui auront totalement explosé. Imagine-t-on cela ? Non. Donc, en fait, on a quand même le sentiment que progressivement, on va aller en fait vers l'enterrement de ces réformes, en particulier de celle-là, pendant celle qui a tellement cristallisé. Et ça va donner également une nouvelle dimension à ce quinquennat, puisque Emmanuel Macron voulait absolument que les grandes réformes soient prêtes pour 2022. Eh bien, vraisemblablement, ça commence à être très compromis.
Alors évidemment, les conditions sont exceptionnelles. Voilà pourquoi ce serait très compromis. On verra ce qui se joue évidemment dans les prochains jours et les prochaines semaines, parce qu'il y a aussi des couteaux qui sortent, hein, de part et d'autre. On va y revenir dans un petit instant, Michaël Darmon. Mais d'abord, il y a des couteaux et puis il y a des mots aussi qu'on avait un peu enterrés qui sont exhumés en quelque sorte. Emmanuel Dutheil, le ministre français de l'économie, tout simplement, Bruno Le Maire, il est prêt désormais à voler au secours des grandes entreprises du CAC 40 malmenées en bourse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mot nationalisation est désormais presque d'actualité, bienvenue. En tout cas, il n'est plus tabou.
Oui. Il l'a utilisé lui-même dès hier en disant qu'il était prêt à tout pour sauver les grandes entreprises et leur permettre de passer cette période extrêmement compliquée et donc de nationaliser. Alors on pense bien évidemment à une entreprise en particulier, c'est le cas d'Air France. Air France est dans une situation totalement cataclysmique. Alors déjà qu'elle n'était pas super en forme avant la crise, mais alors là c'est une crise totalement exceptionnelle, hein, jusqu'à 90% des vols annulés. Ils vont arrêter la quasi-totalité des vols, il faut même parquer des avions dans d'autres aéroports, tellement qu'il y a d'avions à parquer au sol en ce moment. Donc là, c'est un exemple d'une entreprise que l'État pourrait aider, mais il y aura peut-être d'autres exemples, puisque la grande particularité de cette crise, qui n'a rien à voir avec celle de 2008, c'est que là, c'est l'économie réelle qui est touchée, et vous avez bon nombre de très grosses entreprises qui pourtant jusque-là étaient très très riches et avaient les moyens de fonctionner, ne peuvent tout simplement plus faire du tout de business. C'est vrai pour les grands groupes hôteliers, c'est vrai pour les grands groupes de voyage, mais vous avez des pans entiers de l'industrie. Quand vous êtes un Renault ou un PSA et que vous avez vos
Emmanuel,
usines
mais
françaises...
Mais vous avez raison. Et d'ailleurs... ça devient ces grandes entreprises tricolores là dans tous les secteurs impossibles et imaginables, de l'automobile en passant par le bancaire, le tourisme.
Mais encore rien qu'aujourd'hui, ça devient effectivement des proies, mais l'avantage ou l'inconvénient de cette crise, c'est que c'est une crise mondiale. Donc le voyagiste qui serait concurrent de notre voyagiste français, il est au moins aussi mal que notre voyagiste français. Le constructeur automobile concurrent de Renault ou PSA, il est au moins aussi mal que notre constructeur. C'est peut-être l'un des seuls avantages de cette crise, c'est qu'au moins ça met tout le monde
sur un pied d'égalité,
au même niveau. Après, il faut voir que, où vous avez totalement raison, Nathalie, c'est qu'on est en train de vivre en bourse une situation totalement historique. La Bourse de Paris a encore perdu ce soir plus de 6% au moment même là où on est en train de se parler. La bourse américaine, Wall Street, est en train de perdre 10%. Le monde économique est en train d'être remis à niveau. Alors, on pourrait se dire, par rapport à la conséquence sanitaire, c'est pas très grave et réglons d'abord le sanitaire. Mais c'est un point extrêmement important. C'est historique ce qu'on est en train de vivre. Il a encore fallu suspendre encore aujourd'hui un petit peu Wall Street tellement qu'il y avait des baisses sur les marchés. Donc vous avez raison, toutes ces entreprises deviennent des proies éventuelles.
Et oui, alors le jour d'après, on en a souvent entendu parler là ces derniers jours, et je vais revenir à vous dans une seconde, parce qu'il y a eu la crise financière en 2008, il y a eu la crise bancaire, il y a eu tout l'argent à injecter pour pouvoir remettre les banques d'aplomb en quelque sorte. Qu'est-ce qui peut se passer dans quelques semaines? On va se le dire dans un instant. Ève Roger, je voudrais aussi vous interroger sur le quotidien en fait de nos enfants, de nos élèves, de ces scolaires aujourd'hui, parce que déjà c'est compliqué de les faire travailler à la maison, hein, on va pas se mentir, je parle en connaissance de cause. Du coup, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a laissé entendre là que le calendrier scolaire pourrait être bouleversé.
Alors là, on est vraiment suspendu à ses lèvres, mais il va falloir attendre jusqu'aux vacances de Pâques pour savoir si les épreuves du brevet et du bac risquent d'être reportées, parce que c'est effectivement là l'enjeu des prochaines semaines dans l'Éducation nationale. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée, mais aucune décision n'est prise non plus. Donc, reporter, ça voudrait dire... tout est possible, il a dit ce matin, donc ça veut dire qu'on peut imaginer soit que tout le monde passe le brevet et le bac en septembre, mais ça peut être aussi plus tard, ça peut être qu'on peut retarder, repousser la fin de l'année scolaire et puis raboter un peu sur les vacances d'été, c'est-à-dire peut-être partir en vacances fin juillet, passer le bac fin juillet. On n'en sait rien, tout est possible. Tout ce qu'on sait, ce qui est sûr et certain, c'est que la décision sera prise au moment des vacances de printemps.
Au début ? On ne sait pas. Hein.
Début, alors, on ne sait pas, parce qu'il faut avoir une vision de la continuité du confinement. Si ça dure encore 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, c'est pas du tout la même chose que si ça s'arrête dans 15 jours.
Il s'est dit contre une année blanche pour les élèves à ce stade. Ça reste une hypothèse.
Mais là aussi, l'idée de tout reprendre à zéro au mois de septembre, ça semble un peu compliqué. Il y a tellement de situations différentes. Je pense qu'ils vont faire au maximum essayer de reporter juste et de ne pas faire une année blanche.
Michael Darmon, dites-moi, j'ai entendu que Jean-Michel Blanquer, ce matin, typiquement, avait réagi sur un autre aspect sur lequel je voulais vous entendre. Je n'ai jamais entendu Agnès Buzyn demander le report des municipales, disait-il quand elle était interrogé au sujet de la polémique lancée par les propos d'Agnès Buzyn, qui a quitté le ministère de la Santé et de s'assurer pour devenir, on le sait, la candidate à la mairie de Paris pour La République En Marche, et puis qui a raconté là, dans Le Monde, une mascarade pour ses élections, que sur la gravité, en gros, de l'épidémie, elle savait, rien n'a été fait. Je synthétise, hein, bien sûr. Quid aujourd'hui de ce qui se passe autour de ces propos d'Agnès Buzyn dans La Famille En Marche?
Tout d'abord, dans La Famille En Marche, on est d'une violence extrême à son égard. Les propos ne sortent pas, mais je peux vous dire que j'ai pu consulter et on m'a raconté quelques messages qui circulent sur les fameuses boucles Telegram qui circulent en haute Macronie, où ils peuvent se parler en toute discrétion. Et elle se fait étriller du matin au soir, tous les termes y passent, désertion, ambition, arrogance, tout ce que vous voulez. Donc déjà, c'est une sidération. Elle a en fait lancé dans son propre camp une bombe à fragmentation. Ça ne fait que commencer, parce qu'en réalité, tout cela débouchera très certainement sur des conséquences politiques. Bien évidemment, aujourd'hui, au sommet de l'État, on se retient, on ne veut pas vraiment dire ce qu'on en pense, notamment du côté de Matignon, mais par les propos de Jean-Michel Blanquer, on comprend que ça va commencer, les missiles vont commencer aussi à partir, parce que on prend extrêmement mal la manière dont aujourd'hui elle s'est exprimée, peu importe si dans son on va dire communiqué de presse et rétropédalage qui paraît quand même comme dans la tradition des autocritiques un peu de l'époque stalinienne, hein, où tout d'un coup on dit mais non, je regrette, mais enfin elle dit quand même qu'elle maintient avoir prévenu à l'époque
en janvier,
le Premier ministre,
elle a dit.
En janvier. En tout état de cause, on a quand même face à nous aussi quelqu'un dont on ne connaît pas encore vraiment le vrai niveau de sincérité par rapport à ce qu'elle a vraiment voulu faire. On savait qu'elle voulait partir en politique, elle trépignait pour partir en politique, mais ça se passe pas très bien, puisque manifestement elle va pas gagner la mairie de Paris. Et là, tout d'un coup, on a un rétropédalage sur la base d'une, voilà, d'un stress et d'un énorme sentiment de culpabilité.
Vous avez réussi à avoir son entourage une explication.
Dans son entourage, bien évidemment, on vous relit le communiqué de presse et on dit voilà ce qui s'est passé. On dénonce aussi un peu la manière dont les propos ont été captés, repris et retranscrits, parce qu'il ne s'agit pas d'une interview en bonne et due forme, mais voilà de propos qui ont été, comme elle a dit, prononcés dans un moment de contexte. On reproche aussi beaucoup à Macronie, enfin en particulier parmi les plus expérimentés, au fond de ne pas avoir la solidité de quelqu'un qui est expérimenté en politique, parce que ce genre de démarche passe très mal.
Ouais. Emmanuel Dutheil, on va voir comment ça évolue, parce que ça va être une crise politique de toute manière et ça va faire évidemment couler beaucoup d'encre. Emmanuel Dutheil, encore quelques secondes avec vous, parce qu'on a parlé nationalisation, on a parlé évidemment de ces bourses qui plongent depuis des jours maintenant et de manière catastrophique. On se souvient donc de la crise bancaire de 2008, on se souvient de ce qui avait été injecté pour refaire partir les banques. On a un peu de visibilité aujourd'hui, on sait par quels moyens on va pouvoir refaire partir, j'allais dire, tout le système, aussi bien financier que...
On a deux crises qui sont totalement différentes, puisque la dernière fois, la crise était venue justement des banques. Le secteur financier avait explosé. Ce matin, je pense que comme moi, vous étiez tous à l'écoute de Frédéric Oudéa, le patron de la Société Générale, qui est par ailleurs en ce moment le président de la Fédération bancaire française. Il a bien expliqué la différence entre ces deux crises. Aujourd'hui, les banques ont de l'argent, il n'y a aucun problème. L'État a agi très rapidement, notamment pour les prêts pour les entreprises. 300 milliards d'euros de prêts garantis. Donc ce qu'il faut, et c'est ce qu'essaye de faire aujourd'hui le gouvernement français, c'est de déverser beaucoup d'argent pour faire en sorte qu'il y ait le moins de faillites possible. Dire qu'il n'y en aura pas, c'est un mensonge. Mais faire en sorte qu'il y ait le moins de faillites possible. Pour faire quoi? Parce que cette crise, logiquement, une fois qu'elle s'arrête, une fois que l'épidémie est terminée, on va recommencer à consommer. On va retourner au restaurant. Si on arrive à garder nos salaires, on aura logiquement les moyens de reconsommer. Donc ce qu'espère le gouvernement, c'est que ça reparte et que ça reparte fort pour compenser un tout petit peu l'énorme choc que nous aurons connu.
Merci beaucoup. Merci Emmanuel Dutheil, Ève Roger, Mickaël Darmon. Tiens, Mickaël Darmon, on rate pas votre grand rendez-vous. Dimanche matin, 10h sur Europe 1, rendez-vous pris. Vous recevrez Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Absolument.
Première longue interview depuis le premier tour des municipales, depuis aussi le début de cette crise absolument inédite.
Merci beaucoup. Il sort de sa réserve.
Il sort de sa réserve et c'est chez vous que ça se passe. Merci beaucoup. Merci les grandes voix. Merci à vous.
À bientôt.
À très vite. Vous écoutez Europe 1, il est 19h. Votre grand journal du soir.
Aujourd'hui, toutes les mesures que nous aurons à prendre pour tenir compte des effets du confinement sur notre pays.
La France s'apprête à déclarer l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement va demander au Parlement les moyens de faire face à cette situation inédite. Dans ce journal, on verra aussi comment se sont passés les premiers transferts de patients du Grand Est vers le sud de la France pour désengorger les hôpitaux. Olivier Samain nous expliquera pourquoi le ministre de l'économie demande aux salariés des secteurs essentiels de continuer à se rendre au travail. On sera aussi aux États-Unis avec Xavier Yvon après le discours de Donald Trump cet après-midi. Chef de guerre qui ferme la frontière avec le Canada. Et puis vous n'entendrez pas Tom Leb défendre les couleurs de la France à l'Eurovision. Le concours est annulé.
Et la tendance météo d'Anissa.
Alors demain nous aurons deux France, Nathalie. Une France ensoleillée et une France ensoleillée plus. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet. À la une, donc, un nouveau conseil des ministres exceptionnel s'est donc tenu cet après-midi pour faire face, Isabelle, pour faire face à la crise.
Oui, alors que les Français sont confinés depuis maintenant 2 jours. Bonsoir Jean-Rémy Baudot.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Jean-Rémy, c'est absolument inédit. La France s'apprête à déclarer l'état d'urgence sanitaire.
Oui, c'est Édouard Philippe qui a pris la parole après le Conseil des ministres. Et très officiellement, le gouvernement va demander au Parlement de lui donner les moyens de faire face à l'urgence. Il faut adapter les règles de droit de manière provisoire au contexte de l'épidémie, a plaidé le Premier ministre. Cet état d'urgence sanitaire, c'est inédit. Il s'inspire en fait de l'état d'urgence fixé par la loi de 1955, comme ce fut le cas dans la guerre d'Algérie, lors des émeutes de banlieue ou lors des attentats. Ce dispositif, il permet de restreindre les libertés. Attention, le parallèle historique s'arrête là. Dans le cas présent, on parle bien d'état l'état d'urgence sanitaire, ça permet en fait d'aller plus loin que le simple code de la santé publique, notamment sur les questions économiques. L'état d'urgence sanitaire devrait être voté d'ici à la fin de la semaine à l'Assemblée et puis au Sénat. Un état d'urgence temporaire, Édouard Philippe, entre pédagogie et transparence.
La situation que nous connaissons est sans précédent. Jamais le pays n'a été confiné sur tout le territoire pour une durée aussi importante. La vérité, c'est que nous ne connaissons pas aujourd'hui toutes les mesures que nous aurons à prendre pour tenir compte des effets du confinement sur notre pays. Le gouvernement va donc demander au Parlement de l'habiliter à prendre des mesures par ordonnance dans de nombreux domaines.
Et notez qu'un autre point démocratique important a été abordé au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a acté qu'il était impossible d'organiser la suite des élections municipales. Les élus qui ont remporté le premier tour sont donc bien élus, mais pour le second tour, eh bien, un rapport mi-mai sera présenté au Parlement. Si la situation sanitaire le permet, eh bien, c'est en juin que ce second tour devrait avoir lieu.
Merci pour ces précisions, Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Les premiers transferts de patients contaminés de l'hôpital de Mulhouse, surchargés vers ceux de Toulon et de Marseille, ces transferts ont eu lieu aujourd'hui et c'est l'armée qui s'en est chargée comme prévu. L'idée, c'est bien sûr de désengorger des services qui n'en peuvent plus en attendant l'installation d'un hôpital de campagne à Mulhouse. Ces patients, ils ont donc été accueillis chez vous dans le sud de la France, Frédéric Michel.
Effectivement, des patients âgés de 25 à 75 ans, l'avion les transportant a atterri en milieu d'après-midi sur la base militaire d'Istres. Trois de ces patients lourdement médicalisés, intubés et avec des respirateurs artificiels sont arrivés vers 17h à l'hôpital militaire Laveyran, dans les quartiers nord de Marseille. Ils étaient à bord de trois ambulances, des marins-pompiers avec des militaires autour du convoi. Les trois autres patients sont arrivés il y a un peu plus d'une heure à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon, dans des ambulances blanches de l'armée, avec une escorte de motards et un véhicule des marins-pompiers ouvrant le convoi. Ils vont être pris en main par les équipes de ces hôpitaux d'instruction des armées, des personnels formés à la médecine de guerre et de catastrophe. L'hôpital Sainte-Anne de Toulon possède plusieurs lits de réanimation. C'est un établissement spécialisé, notamment pour recevoir les victimes d'accidents de plongée, car on est au bord de la Méditerranée et la base navale est juste à côté. Mais l'hôpital Sainte-Anne peut aussi accueillir des personnes accidentées de la route, des civils. Les capacités de réanimation sont donc disponibles et habituellement utilisées pour l'aide aux civils.
Merci Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. L'armée qui doit par ailleurs, on le disait, installer un hôpital de campagne à Mulhouse, hôpital qui n'ouvrira pas avant une dizaine de jours a priori. Il doit servir à accueillir les personnes les moins touchées, afin de désengorger toujours les services sous tension. La présidente de la Commission européenne a annoncé cet après-midi que face à la pénurie, la Chine allait envoyer plus de 2 millions de masques de protection à l'Union européenne, alors que le directeur général de l'OMS qualifie ce soir le virus d'ennemi de l'humanité. L'Italie a battu un terrible record aujourd'hui, celui du nombre de décès pour un pays sur un jour. 475 morts, alors que les autorités sanitaires appellent aujourd'hui l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire. En France, depuis ce matin, toute sortie de chez vous non justifiée par une attestation vous coûtera 135 euros d'amende. Fini la tolérance. N'oubliez surtout pas de vous munir de votre attestation sur l'honneur. Et notez que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera demain matin l'invité d'Europe 1 entre 8h15 et 8h45. Il répondra aux questions de Mathieu Béliard et de Sonia Mabrouk, mais aussi à vos questions en direct, auditeur d'Europe 1.
Au 3921, par exemple, ou avec le hashtag Radio Ouverte sur Twitter. Isabelle, et si les Français sont fermement priés de rester chez eux, le ministre de l'Économie demande aux salariés des secteurs dits essentiels de continuer de venir travailler, tant, en tout cas, que leurs sites ne seront pas fermés.
Et oui, ce sont des consignes qui ne sont pas toujours comprises. D'ailleurs, sur le terrain, on entendait à 18h la colère et l'inquiétude des salariés d'Amazon. Olivier Samin, si Bruno Le Maire a lancé ce matin cet appel, c'est pour faire écho à une inquiétude qui grandit du côté des entreprises.
Oui, une inquiétude exprimée entre autres ce matin par le numéro 2 du MEDEF, Patrick Martin. Il constate un changement d'attitude extrêmement brutal, dit-il, des salariés après l'entrée en vigueur des mesures de confinement. Et il ajoute, on commence à avoir des demandes de salariés auprès de leurs employeurs pour qu'ils prennent des mesures d'activité partielle, sans quoi ils exerceraient leur droit de retrait. Alors il faut rappeler que l'activité partielle n'est pas justifiée tant qu'il n'y a pas de chute du chiffre d'affaires. Quant au droit de retrait, il répond à des conditions précises. Il faut que l'entreprise soit prise en défaut sur les conditions de sécurité, la distance de 1 mètre entre les postes notamment. D'où l'appel solennel ce matin de Bruno Le Maire. J'invite tous les salariés des entreprises qui sont encore ouvertes à se rendre sur leur lieu de travail où doivent être appliquées des conditions de sécurité sanitaire maximales. Dans une lettre co-signée hier avec son collègue de l'agriculture, Didier Guillaume, Bruno Le Maire rappelait que la fabrication et l'approvisionnement des denrées alimentaires sont un enjeu crucial et stratégique. Nous comptons sur vous, concluaient les deux ministres, et en retour, l'État sera à vos côtés pour traverser cette période difficile.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1, et vous évoquiez, Olivier, le numéro 2 du MEDEF, Patrick Martin, qui sera demain à 7h40 l'invité d'Europe 1. Un coronavirus sans frontières, hein, on le sait maintenant, c'est le plus grand défi qu'ait connu l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, a dit aujourd'hui Angela Merkel. Donald Trump s'est lui aussi exprimé cet après-midi. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York en direct. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Le président américain qui s'est présenté en chef de guerre.
Oui, un président en temps de guerre contre un ennemi invisible, ce sont ses mots. Donald Trump va d'ailleurs mobiliser l'armée américaine, la plus puissante du monde. Deux navires hôpitaux vont être déployés, dont un dans le port de New York, la ville la plus touchée des États-Unis. L'armée va aussi fournir des milliers de masques et de respirateurs. Et puis Donald Trump va également s'attribuer des pouvoirs spéciaux. Il va invoquer une loi qui l'autorise à mobiliser les moyens de production du pays, comme en temps de guerre. Le Defense Production Act va lui permettre d'ordonner aux usines américaines de fabriquer en urgence des gants, des masques, des combinaisons, des respirateurs, bref, tout le matériel nécessaire à la lutte contre la pandémie pour éviter la pénurie. Le président américain a aussi annoncé la fermeture de la frontière avec le Canada, d'un commun accord avec le voisin. Son ton est beaucoup plus sombre et beaucoup plus martial depuis quelques jours, alors que ces dernières semaines, Donald Trump minimisait le danger, expliquait que tout était sous contrôle. Quand il est aujourd'hui interrogé sur son changement d'attitude, le chef de guerre, comme il s'appelle, nie toute responsabilité.
Merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct de New York. Et puis après la fermeture des salles de spectacle et les annulations en cascade des festivals, pour la première fois depuis sa création en 1956, le concours de l'Eurovision ne se tiendra pas cette année. Angèle Châtelier.
Pire qu'un report pour les 41 artistes qui devaient représenter leur pays lors de la 65e édition de l'Eurovision. Le 16 mai à Rotterdam, il n'y aura pas de concours et surtout, en 2021, ce seront de nouveaux chanteurs et de nouvelles chansons. Un mauvais sort donc pour Tom Leb et son titre The Best In Me qui devait représenter la France. You are the best in me. Les Pays-Bas, pays organisateurs du concours, disent avoir réfléchi à de nombreuses alternatives, même songer à ce que les artistes se produisent sans public, chacun de leur côté, et que la cérémonie soit retransmise en ligne. C'est la première fois depuis 1956, date de création du concours, qu'une année se passe sans Eurovision.
Châtelier, spécialiste musique d'Europe 1. Et puis on a appris une disparition ce soir, celle de Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1 qui avait avec Étienne Moujotte inventé la télévision commerciale en France. Il l'a fait dans les années 90 et 2000 de la Une, la première chaîne privée de France. Patrick Lelay avait 77 ans.
Merci à vous Isabelle Millet, le journal qui, l'info qui revient à 19h30 avec un nouveau rappel des titres. Anissa du côté du ciel, la journée de demain sera ensoleillée au sud, pardon,
oui,
j'ai oublié de préciser.
Très ensoleillée aussi, non mais je vous rassure Nathalie, la journée sera aussi très ensoleillée au nord, mais sauf qu'au nord on aura des petits passages nuageux, je vous explique. En début de journée, sur l'ensemble du pays, d'abord il y a des brumes et des brouillards quasiment partout. Dans le sud, on a même des entrées maritimes sur le golfe du Lion. Au nord, sur la Normandie, la région parisienne et les Ardennes, là le ciel sera un petit peu plus couvert demain matin. Et puis au fil des heures, tous ces nuages, tous ces brouillards, toutes ces brumes vont se dissiper et le soleil va prendre le dessus avec une journée très belle. Mais elle sera encore plus belle au sud de la Loire, en fait. C'est juste ça que je voulais vous dire. C'est qu'au nord de la Loire, il y aura des petits nuages. Et puis au sud de la Loire, ça sera vraiment du grand et beau soleil. Nous avons du vent qui se lève. C'est le vent d'OTAN. Il se lève et il va souffler jusqu'à 70 km/h dans le sud. Côté température, ça reste stationnaire. 1 degré à Montluçon demain matin, 3 pour Avignon, 5 à Besançon, 7 à Marseille, Toulouse et Rennes, 8 à Paris. Et puis au meilleur de la journée, il va faire doux quand même. 14 à 19 au nord de la Loire sous les quelques nuages et 18 à 22 dans la moitié sud sous le soleil. Vous l'avez compris. Et demain, on en profite pour aérer. Oui, oui, à fond.
On aère à fond, il fait beau. La suite de votre grand journal du soir, c'est avec vous, Nathalie Lévy.
Avec l'interview politique, c'est dans quelques secondes. Bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir Nathalie.
Vous m'entendez bien, donc tout va bien. Et ce soir, vous recevez Éric Woerth, le président Les Républicains de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Hein. Oui, exactement, Éric Woerth. Il fait partie des quelques députés qui siégeront demain au Palais Bourbon pour voter les mesures d'urgence en réponse à la crise du coronavirus.
A tout de suite pour l'interview politique avec vous, Aurélie Herbemont.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont.
Avec son invité ce soir, votre invité Aurélie, Éric Woerth, président Les Républicains de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale.
Bonsoir Éric Woerth.
Oui, bonsoir.
Le gouvernement prévoit de déclarer un état d'urgence sanitaire, mais d'abord il faut que le Parlement vote le texte de loi le permettant. LR votera cette loi, même si ça implique des mesures encore plus drastiques que le confinement d'aujourd'hui.
Oui, oui, nous voterons évidemment cette loi. Nous voterons les deux lois, le projet de loi de finances rectificative, c'est-à-dire qui met en place les mesures budgétaires et les moyens nécessaires. Et puis le projet de loi qui vise à la fois les élections et puis la création d'un état d'urgence sanitaire. Et puis autorise aussi le gouvernement à légiférer par ordonnance sur un certain nombre de sujets liés au confinement, liés aussi aux mesures économiques à prendre.
L'Union nationale est de mise dans la période qu'on vit ?
Oui, elle est nécessaire. C'est une période que chacun vit à peu près de la même manière, d'ailleurs, puisque chacun est à peu près chez soi, sauf évidemment les personnels soignants, les autorités, la police, la gendarmerie, toutes celles et tous ceux qui doivent assurer le service public et à qui je veux rendre évidemment hommage. Le Parlement, demain, sera réuni, alors en forme très réduite.
Oui, vous ne serez sans doute pas plus de 30 députés en même temps dans l'hémicycle.
Oui, je crois, puisque c'est 2 ou 3 députés par groupe. Donc c'est très, très peu, il y a 8 groupes, donc on sera entre 20 et 30, à la fois en commission, le matin, commission des finances, question d'actualité d'ailleurs le matin également, et puis pour examiner le texte budgétaire demain après-midi, peut-être demain soir d'ailleurs, si c'est nécessaire. Et le Sénat, je pense, de la même façon, procédera sur l'autre projet de loi. Et vendredi, les deux assemblées s'échangeront les deux projets.
C'est important que la vie démocratique continue malgré le confinement ?
Alors c'est absolument indispensable. Il y a 2 choses qui doivent fonctionner, les services publics, évidemment la santé, le service de santé par principe, le service de santé qui est aujourd'hui extraordinairement tendu, les services d'autorité régaliens sont absolument indispensables, et puis le fonctionnement des institutions de notre pays. Si l'un flanche, c'est une partie du pays qui flanche, donc ça c'est juste pas possible, ce qui fait que demain on va se réunir contre toute mesure de confinement. On sera bien physiquement ensemble. Alors les mesures sont prises évidemment d'éloignement, de distanciation comme on dit, mais il y aura bien un débat au Parlement pour à la fois contrôler le gouvernement, l'action du gouvernement, c'est essentiel dans un régime démocratique, et puis aussi voter des lois qui permettent au gouvernement de mettre en œuvre les mesures qu'il propose.
Alors, Éric Woerth, vous êtes président de la Commission des Finances. Le gouvernement estime que les recettes fiscales pour 2020 seront inférieures de 10,7 milliards d'euros par rapport à ce qui était prévu. Vous êtes inquiet des conséquences du coronavirus ?
En fait, pour tout vous dire, je suis inquiet des conséquences du coronavirus sur, évidemment, l'économie. Je l'ai dit depuis pas mal de temps qu'il y aura une forme d'épidémie économique qui créera du chômage, de la récession, des difficultés financières. Donc c'est à traiter avec le même sérieux que évidemment la crise sanitaire qui domine, puisque les hommes et les femmes sont atteintes dans leur propre santé. Mais cette crise économique, elle est là, et elle va se déployer. Donc il faut en limiter les conséquences au maximum sur notamment les petites entreprises qui souffrent d'une trésorerie très faible et qui ont vu d'un jour à l'autre leur chiffre d'affaires totalement s'effondrer. Donc à la fois en mesure de garantie pour essayer de passer ce mauvais cap, en garantissant des emprunts vis-à-vis des banques, mais également aussi en remettant un certain nombre d'impôts et de charges que devaient payer ces entreprises. Donc tout ça nécessite beaucoup de sacrifices d'une certaine façon, et nos finances publiques vont évidemment beaucoup en souffrir, mais il n'y a pas d'autre solution, il n'y a aucune autre solution aujourd'hui. Je trouve qu'ailleurs que le gouvernement est assez optimiste sur la situation économique dans le projet qui nous est présenté demain. Le gouvernement prévoit une récession. Je suis pas oiseau de mauvais augure, hein. Mais quand même, quand on voit que le gouvernement prévoit une récession d'1% de l'année prochaine, enfin cette année, pardon, en 2020, par rapport à une croissance de 1,3 qui était prévue, et quand il prévoit, vous l'avez dit vous-même, 10 milliards de recettes fiscales de moins, en 2008, c'était 50 milliards, enfin 45 pour être exact, de recettes fiscales en moins, et c'était une récession de 3 points, donc 3 fois plus dans la réalité. Donc je me dis que le gouvernement a peut-être raison d'afficher une forme d'optimisme, déjà sur de mauvais chiffres, mais qu'il faut peut-être s'attendre à plus et donc l'anticiper. Ce qui compte, c'est de l'anticiper pour que ça n'arrive pas.
Vous le disiez, les comptes publics risquent d'en souffrir. Vous êtes un libéral, Éric Woerth, partisan d'une certaine rigueur budgétaire, on peut le dire. Mais vu la crise, l'État doit impérativement servir d'amortisseur, quoi qu'il en coûte.
Oui, la formule du président de la République est exacte. Il a repris une formule qu'avait employée en son temps l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas tergiverser. Il n'y a pas d'autre solution. Si l'État n'empêche pas la fermeture, ne protège pas des entreprises d'une manière ou d'une autre, alors la crise sera encore plus profonde et plus grave. Parce que d'abord, cette crise sanitaire, elle ne durera pas, heureusement, je l'espère, trop longtemps. Et donc, c'est un cap à passer. Et si dans ce cap, il y a des mortalités d'entreprises, cette fois-ci extrêmement importantes, l'économie, elle mettra un temps fou pour s'en remettre, et la France aussi. Donc il est extrêmement important entre les deux mots, de choisir celui qui est le plus efficace, qui est au fond de soutenir et d'aider. Mais ça veut dire que toute la chaîne économique doit se mettre en œuvre, que la Banque Centrale Européenne doit aujourd'hui doit jouer son rôle. Alors elle a moins de marge de manœuvre qu'elle en avait en 2008, hein, mais c'est comme ça. Et puis les banques se sont consolidées depuis la crise de 2008, donc elles doivent aussi jouer leur rôle. Les assureurs doivent jouer leur rôle. Enfin, tout le monde doit jouer son rôle. La politique budgétaire doit le faire aussi. Alors ça créera beaucoup de déficits. J'en regrette une seule chose, hein, c'est qu'on n'ait pas mieux rétabli nos finances publiques avant. Ça nous aurait donné plus de marge de manœuvre. C'est pas faute de l'avoir dit, proposé depuis des années maintenant. Hein.
Alors, Éric Woerth, sur un autre sujet parallèle, cet après-midi, vous avez écrit sur Twitter « Le manque de masques devient un sujet majeur de préoccupation et d'incompréhension. Quelle clarification vous attendez du gouvernement ?»
Moi, j'attends du gouvernement qu'il nous dise ce qui se passe sur les masques. Quand vous voyez les pharmaciens qui n'en portent pas, quand vous voyez, parce qu'ils n'en ont pas, quand vous voyez des personnels soignants qui sont au bout de leur stock de masques, quand vous voyez des policiers dans la rue qui contrôlent le confinement, ne pas en porter, mettant en danger eux-mêmes et les personnes qu'ils contrôlent, tout ça pose des dentistes, des chirurgiens dentistes, etc., des médecins généralistes. Ça pose d'énormes questions. Quand on voit dans d'autres pays toutes ces images d'autres pays où les gens ont des masques, on nous dit protégez-vous, en se protégeant on protège les autres, chacun a bien compris cela, mais encore faut-il aussi avoir les moyens de cette protection, et on a besoin à un moment donné, on ne sait pas, on est moins bien, ça ne veut pas dire qu'on a le virus, on n'en sait rien, de toute façon il n'y a pas de test, donc c'est bien d'avoir des masques pour protéger les autres, notamment dans sa propre famille, dans son propre entourage.
Le message est transmis au gouvernement. Merci beaucoup Éric Woerth d'avoir été mon invité ce soir.
Je vous en prie. Au revoir.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy.
Et oui, restez avec nous au 3921 et puis sur Twitter, hashtag Radio Ouvert. Dans un instant, demain en France et demain dans le monde. Et puis à 19h30, vous allez comprendre. On va vous rendre hommage, oui, à vous, tous ceux qui êtes en mouvement pour aider nos soignants, pour aider nos compatriotes. Là, par exemple, c'était hier soir à Paris, dans le 20e, pour soutenir les soignants.
Votre
grand journal du soir sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy. Et avant 19h30, on s'intéresse à ce qui va se passer demain. On prend un temps d'avance pour écouter le monde changer, Nathalie.
Et oui, on prend un temps d'avance et un temps d'avance solidaire, j'ai envie de vous dire, Anissa et à vous tous qui nous écoutez, parce que les collectes de dons du sang, on se pose la question de savoir si elles sont menacées aujourd'hui par ces temps de confinement. L'établissement français du sang lance un appel d'ailleurs aux donneurs pour que la chaîne du don du sang ne soit pas rompue. Bonsoir Lionel Gougelot.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Eh oui, c'est notamment le cas chez vous dans les Hauts-de-France.
Oui, effectivement. À Lille, vous savez, on a observé ces derniers jours une baisse d'environ 30% de l'activité des prélèvements et donc du don du sang. Faut dire qu'avec la fermeture des lycées, des universités ou de certaines entreprises ou de collectivités, eh bien ce sont, vous l'imaginez, autant de lieux où les collectes ont été annulées ces derniers temps. Alors, l'établissement français du sang avait de grosses inquiétudes pour les prochains jours, pour les prochains points de collecte mobiles à travers la région. Vous savez, dans des salles municipales prêtées par exemple par les mairies. Eh bien, ces points de collecte ne sont pas considérés par les préfets comme des lieux de rassemblement, mais des lieux de passage. Et donc, eh bien, ça va permettre les collectes de sang, et ce, en toute sécurité, m'a assuré aujourd'hui le docteur Sandrine Vanlard, directrice des collectes à l'établissement français du sang de Lille.
Les mesures sont renforcées. Il ne faudra pas que les donneurs soient surpris. Les personnels qui vont les accueillir vont porter des masques, évidemment. Il y aura des solutions hydroalcooliques, des distances qui seront appliquées entre chaque donneur au niveau des fauteuils de prélèvement et au niveau de la collation après, à savoir que sur des collectes dont les salles seraient un peu petites, on va même probablement les faire de manière ce que j'appellerais fermée et en les faisant sur rendez-vous de manière à être certain de ne pas avoir trop de personnes en même temps. Donc les donneurs peuvent être assurés, toutes les gestes barrières sont appliqués largement sur nos points de collecte.
Tous les gestes barrières et bien évidemment, il y en a les donneurs présentant des symptômes de coronavirus doivent s'abstenir et ça va de soi.
Évidemment. Les donneurs de sang qui viendraient à présenter des symptômes respiratoires, un état fébrile ou alors un syndrome grippal dans les jours qui suivent le don du sang, eh bien évidemment, ils doivent immédiatement en informer l'établissement français du sang.
Merci beaucoup Lionel Gougelot, correspondant Europe 1 dans les Hauts-de-France. Merci, on vous retrouve d'ailleurs après 19h30 parce que on va faire un tour de France de belles initiatives en ces temps de pandémie. Elles se bousculent, on a envie de les porter haut et fort sur l'antenne d'Europe 1. Merci. Demain dans le monde, c'est avec vous Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir Nathalie.
Alors nous continuons bien sûr à suivre la pandémie du Covid-19 et à observer les réponses apportées à l'étranger pays par pays, avec ce choix particulier de la Grande-Bretagne de ne pas vouloir imposer de confinement. Mais qui sait ?
Oui, un pari extrêmement risqué qui s'appuie tout de même sur une stratégie médicale, le principe de l'immunité de groupe, que l'on appelle également immunité collective, et qui est appliqué, faute de mieux en général, à des épidémies virales pour lesquelles on n'a pas de remède. Dans ces conditions extrêmes, lorsqu'on n'a plus le choix, on est obligé de laisser la maladie se développer jusqu'à ce qu'elle touche environ 60% de la population, qui devient alors immunisé, avec deux effets. D'abord, ça bloque la propagation du virus et ensuite, ça permet d'être beaucoup moins durement touché pour les années qui suivent par une nouvelle apparition du même virus. L'énorme inconvénient de cette stratégie, qui était jusqu'à ce matin celle retenue par le Premier ministre Boris Johnson, c'est que son bilan humain est absolument dramatique. L'équivalent britannique du Comité français des experts a tiré la sonnette d'alarme en publiant ses projections qui sont cauchemardesque puisqu'elle prévoit environ 250 000 morts si le gouvernement britannique s'entêtait dans cette direction. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Édouard Philippe a menacé hier soir de fermer nos frontières avec le Royaume-Uni si des mesures drastiques de contrôle n'étaient pas très rapidement mises en œuvre.
Et c'est ce qui a fait réfléchir les autorités britanniques, hein.
Alors oui, partiellement. Ce matin, Boris Johnson a tenu une conférence de presse en présence des journalistes d'ailleurs, ce qui n'était pas une téléconférence. Et pour la première fois, il a recommandé à la population de réduire ses déplacements non essentiels, d'éviter les pubs par exemple, les théâtres. Mais il refuse toujours d'imposer un confinement comme la France, l'Espagne ou l'Italie. En revanche, le gouvernement britannique a pris des mesures radicales pour soutenir ses entreprises. 360 milliards d'euros en prêts garantis par l'État pour dégager des liquidités. C'est énorme. C'est 15% du produit intérieur brut. Mais c'est surtout extrêmement révélateur des priorités britanniques.
Et le Royaume-Uni néanmoins qui a quand même décidé, voyez, hein, Didier, ça chemine, le Royaume-Uni qui a décidé de fermer les écoles à partir de demain matin jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup Didier François.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy.
Oui, alors vous connaissez évidemment La France bouge. C'est ce que vous raconte tous les soirs, tous les midis, Raphaël Duchemin. On a décidé aussi ce soir, nous, de saluer cette France qui bouge, qui innove, cette France solidaire dans ce moment si particulier que nous vivons tous. Des initiatives originales en région, Anissa, avec nos correspondants. Et puis le docteur Jimmy Mohamed, qui est essentiel, plus que jamais, nous rejoindra également pour répondre à toutes vos questions. Ça se passe d'ailleurs au 3921 et puis hashtag Radio Ouverte sur Twitter. D'abord, c'est votre rappel des titres, Isabelle Billet.
Il est 19h30, vous écoutez Europe 1 avec Nathalie Lévy.
Et alors que le patron de l'OMS qualifie le Covid-19 d'ennemi de l'humanité et que l'Italie vient de battre un triste record de morts en 24 heures avec 475 décès, en France, 89 nouveaux décès en une journée, 3626 hospitalisations, dont 921 en réanimation, l'exécutif veut instaurer un état d'urgence sanitaire, mais pas de couvre-feu envisagé, dit ce soir le secrétaire d'État à l'intérieur. 6 patients ont été évacués aujourd'hui de Mulhouse et de Colmar à bord d'un avion militaire vers Toulon et Marseille. Objectif désengorger les hôpitaux du Grand Est. Au deuxième jour du confinement, sortir sans une attestation est désormais sanctionné de 135 euros d'amende. Il commence à y avoir des tensions sur les effectifs de salariés présents dans la grande distribution et les transports. C'est ce que dit le ministre de l'économie. Des salariés qui craignent pour leur santé, même si les magasins restent bien approvisionnés, précise Bruno Le Maire. Et puis la disparition à 77 ans de Patrick Lelay, ancien patron de TF1. Il a dirigé la première chaîne pendant 20 ans.
Merci beaucoup Isabelle, vous êtes avec mes côtés demain pour l'information 18h-20h. Anissa, au niveau du temps, ça se passe comment?
Bon, ça se passe bien Nathalie, hein. Nous sommes vraiment partis sur une vague printanière là pour vraiment une longue période. On est parti sur une dizaine de jours de très beau temps avec un ciel très dégagé. Demain, nous aurons à peu près la même journée qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des brumes et des brouillards le matin qui vont se dissiper à la mi-journée pour ensuite laisser place au soleil. Alors, on va couper la France en deux. Au nord de la Loire, le soleil sera parfois voilé par quelques passages nuageux et au sud, c'est vraiment un grand et franc soleil qui va éblouir le beau ciel. En tout cas, ça fait du bien. Et puis surtout, les températures qui sont très agréables. Demain après-midi, on aura 10 à 23 degrés. 10 à Dunkerque, 12 à Chambéry, 19 pour Marseille, Paris et Saint-Etienne et 23 à Brive-la-Gaillarde.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Et on va faire ce soir un tour de France qui fait du bien. Un tour de France des initiatives de ces citoyens qui se mobilisent dans ces moments très particuliers. Vous pouvez, vous aussi, réagir, venir poser vos questions. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21. Je vous rappelle d'ailleurs que tous les bénéfices de vos appels sont reversés à l'Institut Pasteur. Et puis vous pouvez réagir, poser vos questions au docteur Jimmy Mohamed sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Eh oui, on va enchaîner évidemment. Et puis vous nous avez dit, Anissa, qu'il y avait du beau temps pour les 10 prochains jours, ce qui va générer encore plus, j'en suis sûre, de mouvements et d'initiatives comme ceux qu'on va raconter ce soir. Alors on va prendre la direction du sud-est de la France pour commencer. On va s'installer à Nice où plusieurs habitants ont lancé un appel à la solidarité. Applaudir tous les soirs à 20h les personnels soignants et toutes les personnes luttant contre le virus. Frédéric Michel, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Eh oui, vous étiez dans les rues de Nice hier et spontanément, ils étaient, on l'entend bien, ils étaient plusieurs dizaines d'habitants à leurs balcons et fenêtres pour applaudir.
Effectivement, vous l'entendez, et l'opération sera renouvelée ce soir et dans les prochains jours. L'idée lancée dans Nice ce matin et sur les réseaux sociaux émane d'un petit groupe de niçois. Objectif, saluer, vous l'avez dit, le travail de toutes les personnes luttant contre ce virus, notamment le personnel médical, et rompre aussi l'isolement partagé avec ses voisins pour se soulager de cette atmosphère pesante. Hier, on a entendu des applaudissements, vous venez de les entendre, des bruits de casseroles et parfois même de la musique et des Marseillaises. Benjamin est à l'initiative de cette mobilisation citoyenne à Nice.
Se resserrer les coudes et se recentrer là sur notre vivre ensemble, c'est peut-être un mal pour un bien, je sais pas. Aussi, on a besoin de tous autant qu'on est d'avoir cet échange-là, s'entendre crier les uns les autres, applaudir. On est tout seul à la maison, on tourne en rond et ça peut être un peu un moyen de se changer les idées et d'avoir un peu des choses positives dans la journée.
Voilà, et dans quelques minutes, à 20h, ce concert citoyen devrait retentir à nouveau à Nice comme ailleurs en France. Souvenez-vous, on avait vu les mêmes réactions en Italie au début du confinement général. On écoute quelques applaudissements et je vous applaudis aussi, ma chère Nathalie.
Oh, mais moi aussi, je vous applaudis. Et vous savez quoi, Frédéric Michel ? On prend les paris. Demain, Demain, allez, peut-être après-demain, disons, on fait pareil, là, à la fin du 18h-20h du votre grand journal sur Europe 1. On fait en sorte que là, dans Paris, dans le 15e arrondissement, pour être tout à fait précis avec vous, eh bien, et transparent, eh bien, j'espère qu'ils seront très nombreux à nous suivre. Et je prendrai mon micro, je m'installerai sur le balcon et avec tous les voisins, eh bien, on fera pareil pour les soignants. Merci beaucoup, Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice.
On sera avec vous, à demain.
Ouais, merci. Et Jimmy Mohamed, vous êtes le docteur Europe 1 qu'on entend depuis la matinale et tout au long de la journée. Merci de renseigner les auditeurs. Merci de nous renseigner, nous, chaque soir, chaque jour. Alors évidemment, les soignants, ils sont épuisés. Ils n'ont pas les moyens. Il y a eu cette crise des urgences depuis des mois. Est-ce que ça, malgré tout, cette chaleur, ces applaudissements, ça les encourage ?
Oui, effectivement, Nathalie, vous avez raison, c'est un peu une bouffée d'oxygène, d'autant plus que là, on est dans un marathon, on a l'impression que c'est un sprint, alors que les jours à venir, voire les semaines, vont être très difficiles. En revanche, si on veut vraiment aider l'hôpital, la meilleure façon, c'est de rester chez soi, de lutter justement contre cette chaîne de contamination, puisque les encouragements, c'est une bonne chose, mais si derrière, on voit, comme on a pu voir dans certains marchés, des gens qui vont se coller les uns aux autres et disséminer le virus, qui vont se retrouver aux urgences, ça risque de poser problème. Et deuxième chose, il est vrai que le confinement rend parfois un peu anxieux les gens, et le 119, d'après mes informations, a un nombre d'appels qui augmente, ce qui veut donc dire qu'il y a un risque de maltraitance infantile. Alors c'est vrai que je plombe un peu l'ambiance puisqu'on parle d'une bonne initiative, mais comme les enfants sont à la maison confinés, un peu excités, les parents sont un peu dépassés, il va falloir être vigilant sur les chiffres de maltraitance infantile dans les jours à venir.
Et les féminicides aussi, on pourrait, j'allais dire, allonger la liste, peut-être en quelque sorte, en tout cas les violences conjugales, Jimmy Mohamed, parce qu'on sait bien qu'être ensemble pendant des heures et des jours, c'est propice effectivement aux tensions. Qu'est-ce qu'on fait quand même? Alors dites-moi d'un mot, parce qu'on sait bien qu'il faut pas, on sait bien qu'il faut pas aller dans la rue, qu'il faut pas descendre, mais on sort quand même de chez soi, on fait le tour du pâté de maison vite fait quand même.
Je pense qu'il faut s'aménager malgré tout des petits moments dans la journée où on accepte pendant une heure ou deux, quand on a la chance d'avoir les deux parents à la maison, un moment de pause, un moment de répit où on est un peu coupé du monde. On se met, on s'isole dans la chambre, on remet les compteurs à zéro car les journées sont longues et ce n'est que le début. On est au deuxième jour du confinement. On a le sentiment que ça fait 15 jours. Malgré tout, on a un certain confort. Donc je pense que s'accorder des moments de break, et vous l'avez dit, en bas de la maison, on fait le tour du pâté de maison seul où on évite les regroupements, ça peut être un moyen, une soupape pour décompresser et éviter d'en arriver au pire, même si on comprend, parfois on est des parents, on peut être un peu dépassé, mais il va falloir être endurant, on est qu'au deuxième jour et vous l'avez dit, les féminicides risquent d'être en augmentation, donc prudence sur les violences conjugales, on a observé exactement la même chose en Chine, donc peut-être qu'il va falloir sensibiliser un petit peu plus les gens sur le fait que il va falloir être endurant et patient.
Et faire du yoga, donc. C'était pour le petit sourire vite fait. Jimmy Mohamed, vous restez avec moi. Évidemment, on se retrouve dans un instant. Des belles initiatives, il y en a un peu partout. Ça fleurit en France et on adore ça. Alors, on vous en livre d'autres sur Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy. Et ce soir, on fait un tour de France de ces belles initiatives mises en place pendant cette période si particulière de confinement. Et puis, on vous écoute au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Et oui, et on est en ligne ce soir avec Floriane Bertolosso. Bonsoir. Merci, bonsoir. Floriane, d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes couturière. Et du coup, parce que vous êtes comme nous tous confinés, vous avez pris votre machine, enfin j'imagine, peut-être que c'est à la main, et vous êtes dit que faire ? Eh bien, je vais fabriquer des masques. Ça, c'est quand même la meilleure idée qui soit en ce moment. Hein. Vous avez une entreprise de couture dans l'Isère, et comment vous les fabriquez ? Racontez-nous.
Donc oui, en effet, j'ai une entreprise de couture à la base pour bébé. Et puis j'ai été arrêtée suite aux fermetures des écoles, donc je me suis retrouvée à la maison. Et puis je me suis dit c'est une aubaine pour avancer sur les commandes. Et puis je me suis dit non, mais c'est pas possible. En fait, on entendait donc à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, on voyait des personnes qui étaient complètement dépassées du fait qu'il y ait des manques de masques. Ah oui, totalement. Donc j'ai dit je vais en faire quelques-uns. Hein. Au début, j'en ai fait 9. Et puis je les ai mis en photo et je me suis dit donc je sais que c'est pas forcément ce qui est le plus adapté en termes de c'est pas un FFP2 hein, c'est un masque en tissu hein. Et puis j'ai lancé une bouteille à la mer, j'ai publié l'annonce en disant que je les faisais gratuitement pour le personnel soignant qui est dans mon secteur, si quelqu'un si ça pouvait intéresser quelqu'un. Et puis en fait, ça a fait un peu l'effet boule de neige. Hein, les téléphones, les réseaux sociaux, tout a sonné. C'est impressionnant. J'ai des commandes, j'ai des établissements de santé. Je m'attendais pas à un tel retour.
Ah oui, bien
vraiment.
Sûr.
Oui.
C'est génial parce qu'effectivement, on a vu aussi que le CHU de Grenoble avait lancé une initiative en ce sens aussi, qui réalisait même un tuto pour fabriquer des masques en cas de pénurie extrême. On voit qu'il y a des initiatives comme ça qui fleurissent de partout, donc bravo à vous. Il vous reste du tissu, vous avez ce qu'il faut en matériel et vous choisissez précisément des tissus épais, j'imagine.
Alors voilà, tout à fait. Le souci étant, c'est que dans l'idéal, il faudrait une couche de molleton ou d'un tissu filtrant adapté, mais bien sûr, les merceries étant fermées, les fournisseurs étant fermés, je me retrouve un petit peu à me débrouiller un petit peu avec ce que j'ai concrètement. Donc je double les couches. Et puis par contre, le souci que je rencontre assez régulièrement depuis dimanche, c'est que je tombe régulièrement en panne d'élastique pour les attaches. Donc je fais des appels sur les réseaux sociaux, des médias ont relayé mes recherches. Donc j'ai c'est gentil, merci. Donc j'ai des personnes qui viennent chez moi, qui m'appellent, qui m'envoient des messages pour qu'elles puissent m'envoyer par la poste ou me déposer dans la boîte aux lettres pour éviter les contacts, bien sûr. Les élastiques tant recherchés qui me permettent petit à petit d'avancer dans les demandes des personnels soignants.
Floriane Bertolosso, donc ça se passe au 3921, hashtag radio ouverte si vous voulez envoyer des élastiques à Floriane Bertolosso qui est en Isère. Merci à vous, vous continuez comme ça, on vous envoie des élastiques, du tissu et beaucoup de courage bien sûr. Et merci pour cette initiative. Stéphane Place, on vous retrouve dans le sud-ouest, avec dans le sud de la Gironde, dans l'Entre-deux-Mers, une initiative un peu semblable.
Oui, c'est vrai Nathalie, en fait c'est tout simple. Dans cette communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers, on avait toujours en stock des centaines de masques de protection achetée en 2009. Vous vous souvenez, c'était à l'époque de la crise du virus H1N1. Eh bien, cela fait tilt grâce à la présence d'esprit d'une employée. On s'est souvenu de l'existence de ces masques rangés dans un coin et qui vont rendre service aujourd'hui, comme l'explique le président de la communauté de communes rurales de l'Entre-deux-Mers, Yves Damécourt.
Il y a une personne qui travaille dans l'administration de la communauté de communes, qui s'appelle Cathy, qui m'a appelé avant-hier pour me dire « Monsieur le Président, en fait, on a en stock 500 masques qu'on avait achetés au moment de l'épidémie H1N1. Qu'est-ce qu'on en fait ?» Et donc, je lui ai dit « Il faut tout de suite les répartir sur les pharmacies de notre communauté de communes et les pharmacies du territoire. Après ça, les prescrivent aux professionnels de santé, aux médecins, etc. »
Ils restent valables, ces masques ?
En fait, on a appelé le fournisseur parce qu'il y avait une date de péremption, de prescription. Et en fait, le fournisseur nous a dit « Non, mais la date de prescription, elle est simplement sur les élastiques et pas sur le masque lui-même. » Donc, dans la mesure où les élastiques tiennent le coup, il n'y a pas de problème. Les professionnels de santé sont ravis, tout le monde est content.
Et voilà, et l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine explique qu'environ 2 millions de ces masques chirurgicaux ou FFP2 issus de ces vieux stocks conservés dans des collectivités ou des administrations vont ainsi être récupérés, mis à la disposition des médecins libéraux, des établissements de santé de la région. Et effectivement, le directeur de l'ARS insiste, les experts du ministère de la Santé assurent que ces masques périmés présentent les mêmes garanties de protection, la seule fragilité pouvant se trouver au niveau des élastiques. Et d'ailleurs, l'Agence régionale de santé, ce soir, lance ici en Nouvelle-Aquitaine un appel de solidarité aux entreprises qui détiendraient aussi peut-être des stocks de masques, y compris donc des masques périmés.
Eh oui, alors évidemment, on voit. Merci beaucoup. Dans le sud de la Gironde, où on vous salue aussi, tout comme en Isère, on voit qu'il y a des petites mains comme ça qui se mobilisent. Et heureusement, docteur Jimmy Mohamed, je vous pose quand même la question. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais les masques en tissu, bonne ou mauvaise idée, voire très mauvaise idée ?
Non, c'est pas une si mauvaise idée. Dans l'état actuel où nous n'avons pas assez de masques, toute initiative est bonne à prendre et donc finalement c'est mieux que rien. Des études montrent que le masque FFP2 reste le gold standard, ce qui est le plus efficace, mais c'est pour le personnel de santé. Suivi ensuite du masque chirurgical, mais il n'y en a pas non plus. Et donc le masque en tissu vient en troisième position, mais une alternative acceptable. Cependant, ça en dit long quand même sur le problème qu'on a, l'absence d'anticipation. D'autant plus que les études montrent qu'en Asie, lors de l'épidémie de SRAS, si la population est massivement masqués, ils ont des masques, on réduit le nombre de cas. Donc finalement, équiper les gens, même avec des masques en tissu, pourrait être bénéfique. Les masques FFP2 avec les élastiques, on les connaît, moi j'en ai eu, ils marchent très bien, mais effectivement l'élastique casse, mais ça reste, on va dire, mieux que rien, même si ça reste dramatique d'en arriver là, en France, 5e ou 6e puissance mondiale.
Évidemment. Alors on va prendre la direction du Nord maintenant. Enfin, vous avez dit en tout cas, il faut s'en procurer, donc allons-y, continuons, même avec un vieux jean, des choses comme ça, des tissus épais, on fabrique du masque avec ses petits doigts. Direction direction le Nord à présent avec Lionel Gougelot, le maire de Dunkerque lance, Lionel, un appel pour que les entreprises aident aussi, évidemment, aident les soignants.
Bah oui, alors c'est un petit peu dans le même état d'esprit que ce qui se passe du côté de notre ami Stéphane Place en Gironde. En fait, le maire de Dunkerque, il a lancé un appel aux entreprises qui peuvent, dans leur stock, disposer de différents matériels de protection sanitaire. Alors évidemment, ça peut être des masques, notamment pour les entreprises de BTP, parce que j'ai entendu dire aujourd'hui que certaines entreprises de BTP avaient des stocks dormants de masques qui pouvaient être utiles. Mais ça peut concerner aussi des bouteilles de gel hydroalcoolique, des gants, des blouses, des charlottes en papier, des lingettes désinfectantes, des sprays désinfectants même. Donc le maire de Dunkerque lance un appel à toutes les entreprises du secteur pour qu'elles aillent en quelque sorte aller voir dans leur stock si elles n'ont pas des réserves qui pourraient être utiles aux différents professionnels de santé. Alors ça va bien sûr des médecins jusqu'aux infirmiers, en passant par les ambulanciers, les aides à domicile également, on en a beaucoup parlé également, les aides à domicile sont plutôt démunies de ce point de vue-là. Donc il va y avoir un lieu de stockage à Dunkerque où tous ces matériels utiles pourront être stockés et seront ensuite redistribués aux différentes professions de santé par le biais des syndicats, des ordres professionnels. Ce sont donc les professionnels qui prendront en charge la répartition auprès des différents professionnels de santé. Donc le site de stockage est ouvert depuis aujourd'hui et donc l'appel est lancé à toutes les entreprises, je dirais, de la grande région nord de la France.
Merci beaucoup Lionel Gougelot. On continue notre tour de France comme ça, des bonnes initiatives. On va filer en Haute-Garonne dans un petit instant. Vous allez voir, des bonnes âmes, la solidarité à plein, ça fonctionne. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy. Et jusqu'à 20h, ensemble, nous découvrons toutes ces initiatives très positives qui sont en train de se mettre en place pendant cette période si particulière qui est en train de connaître le pays. Et ça se passe au 39-21 avec vos réactions, vos questions également sur le hashtag Radio Ouverte. Et je vous rappelle que les bénéfices reversés à l'Institut Pasteur, les bénéfices de vos appels au 39-21, évidemment.
Eh oui, vous avez vu, Anissa et vous tous, comme ça va vite, ça fait boule de neige, ces initiatives positives. Alors, on continue effectivement notre tour de France. On file en Haute-Garonne ce soir rejoindre Ophélie Borel. Bonsoir, Ophélie. Bonsoir. Vous êtes, vous, gestionnaire d'une crèche à Cornebarieux, c'est ça?
Oui.
Et vous proposez quoi exactement?
Alors du coup, nous on accueille habituellement 10 enfants, voilà, dans la région toulousaine. Et là, on a demandé aux familles qui pouvaient garder leurs enfants à la maison de ne pas venir à la crèche pour libérer un maximum de place pour les enfants, de personnel soignant, de médecins, de pompiers et des forces de l'ordre.
D'accord. Vous proposez dans quelles conditions? Parce que bien entendu, il faut sécuriser tout ça, il faut assainir tout ça.
Oui. C'est ça. Alors nous, les mesures d'hygiène font partie de nos habitudes quotidiennes, de manière générale pour une crèche. Et là, on a renforcé du coup toutes les fréquences de désinfection, de lavage de mains. On nettoie quotidiennement tous les draps. Les jeux sont lavés 2 fois par jour. On a imposé du coup à nos professionnels une tenue spécifique pour la crèche pour éviter de ramener aussi les habits à la maison qui sont lavés sur place. Le lavage des mains est imposé aux enfants à l'arrivée et au départ. Voilà, les familles qui habituellement peuvent investir les lieux, là, ne peuvent pas rentrer dans les pièces de vie. On met en place...
Combien d'enfants, donc, maximum? On sait que le gouvernement était très clair, voilà. Donc, en deçà de 10. Et vous avez diffusé ce message? On le sait que chez vous, il y a cette possibilité. Voilà, et nous, on continue de diffuser donc sur Europe 1, Ophélie Borel. Ça se passe donc dans cette crèche de Cornebarieux. Merci beaucoup et continuez. Merci. On vous encourage évidemment, on vous soutient. Jimmy Mohamed, bien sûr, les soignants, les policiers, les gendarmes qui sont essentiels plus que jamais pour nous tous. Et leurs enfants, ils sont essentiels, bien sûr. Il faut les garder, il faut les chérir, il faut les protéger.
Oui, exactement. Il faut assurer la permanence des soins, la continuité des soins. Si les soignants ne peuvent plus soigner l'afflux de malades qu'on va avoir de plus en plus nombreux, les chiffres vont doubler toutes les 48 à 72 heures. On espère que les mesures de confinement vont avoir un effet d'ici une dizaine de jours. Même si on peut être plutôt rassurant, a priori, les enfants sont pas si vecteurs que ça de la maladie et ne seraient pas si contagieux. Donc accueillir 10 enfants tels que vous le faites, on avait dit initialement que les enfants étaient un réservoir à microbes et qu'il fallait absolument, parce qu'on s'est calé sur le le modèle de la grippe. Dans la grippe,
et puis asymptomatique souvent... également, Jimmy Mohamed. Hein.
Asymptomatique, oui, c'est ce que vous avez dit, parce qu'on sait, et on sait quel est son modèle de la grippe. On s'est dit, les enfants sont vecteurs de la maladie, on ferme les écoles, c'était une mesure qui était nécessaire, mais les experts qu'on interroge jour après jour nous disent, bah, finalement, les enfants sont peut-être pas si contagieux que ça. Rendez-vous compte, depuis la fermeture des écoles, on a un nombre constant de malades qui ne fait qu'augmenter, et donc peut-être qu'ils sont pas si à risque que ça. Le risque vient essentiellement des adultes, donc accueillir 10 enfants avec les mesures que vous prenez, justement quand même de sécurité, puisqu'il faut qu'on fasse le maximum, ça reste une très bonne chose pour que les soignants puissent faire leur travail et sauver les gens du quotidien.
Avec un petit peu de quiétude dans cette période terrible. Merci beaucoup en tout cas pour ces initiatives, Ophélie Borel, on l'a entendu. On va continuer comme ça demain notre Tour de France parce qu'on a envie évidemment en début de soirée aussi de vous apporter du positif, des réponses concrètes. D'ailleurs, nos auditeurs, tiens, ils ont trouvé notre numéro le 3921, ils l'ont composé et Jimmy Mohamed, ils ont des questions à vous poser. Pareil sur Twitter, hashtag Radio Ouverte. Alors on a un premier auditeur ce soir, bonsoir. Carlo, bonsoir Carlo, vous m'entendez ?
Bonsoir. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Et tout d'abord, je voudrais dire un très très grand merci à tout le personnel médical de France qui se démène pour nous soigner, tout simplement. Et j'avais une question toute bête à poser. Concernant, moi je suis amateur de fruits et de légumes frais. Allô ?
Oui, on vous écoute, allez-y. Vous avez raison, je sens
donc,
que votre question va être
très utile. Je me demandais si une personne contaminée dans les grandes surfaces s'amuse à tripoter les fruits et les légumes, est-ce que ces fruits et ces légumes sont contaminés eux aussi ?
Alors, dis-moi, madame.
On nous dit que c'est pas contact, alors bon, je me pose la question, quoi.
Oui, alors, oui, effectivement, certains experts disent que la contamination par les...
Ah, petit problème de liaison, on vous écoute. Jimmy et Mohamed, notre docteur.
Oui, vous entendez, vous m'entendez ?
Ah, ben on vous entend. Alors,
oui, pardon. Alors, certains experts disent que la contamination au travers des aliments est nulle. J'aimerais quand même dire qu'on a quand même dit beaucoup de choses et on a fait pas mal de rétropédalage. Donc, dans l'état actuel des connaissances, de toute façon, lorsque vous avez des fruits et des légumes que vous ramenez à la maison, il est raisonnable de les rincer à l'eau. La cuisson élimine tout risque de virus. Donc, si vous les faites cuire, il n'y a aucun problème. Même si on considère que le risque est très faible, voire nul, de transmission au travers des aliments. Mais encore une fois, on découvre cette épidémie jour après jour. On a l'impression que l'exemple chinois n'a pas servi à grand chose. Et donc, pour l'instant, soyez prudents et rincez vos fruits et légumes ou faites-les cuire lorsque vous mangez, par exemple, de la viande. Ça détruit tout simplement le virus.
Et puis, on épluche aussi ce qu'on peut. Donc, effectivement, on est vigilant là aussi. Merci pour votre appel et votre question qui était bienvenue. On va prendre José qui est avec nous, qui nous appelle depuis Montreuil. Bonsoir, José.
Oui, bonsoir. Bonsoir à vous et docteur Jimmy Mohamed et aux auditeurs. Voilà, ma question, c'est tout simple. C'est qu'on nous dit que pour, comme remède quasiment unique, il y a du paracétamol. Or, des personnes comme moi qui sommes allergiques au paracétamol et d'autres personnes, parce qu'en plus de l'Doliprane ou autre, c'est quand même pas à prendre avec précaution. La preuve, c'est que maintenant, c'est donné derrière les comptoirs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pourquoi dire toujours paracétamol ? Il faudrait peut-être donner d'autres médicaments de façon à ce que justement on ne réagisse pas à chaque fois de manière allergique, j'allais dire.
Exactement. Alors, votre réponse, Jimmy Mohamed ?
Alors, si on a une allergie authentique au paracétamol, celle-ci, elle est vraiment exceptionnelle, mais elle existe malgré tout. On déconseille de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'Advil, l'ibuprofène, le spédifène, tous ces médicaments qui sont disponibles sans ordonnance, car en fait, c'est un retour d'expérience de terrain. Pour l'instant, nous n'avons pas de confirmation. Néanmoins, les réanimateurs et les urgentistes sont d'accord pour dire que les formes graves, certains patients ont pris au début de la maladie ces anti-inflammatoires, raison pour laquelle on les déconseille. Donc si vous êtes allergique authentique au paracétamol, on vous déconseille de prendre un anti-inflammatoire, vous risquez finalement peut-être d'aggraver la maladie, donc il va falloir supporter la température, s'hydrater, vous découvrir, ne pas surchauffer la pièce, et puis voir comment ça évolue, et au moindre doute, n'hésitez pas à appeler votre médecin traitant pour prendre conseil.
Merci beaucoup pour votre question, José, depuis Montreuil, et merci à vous, docteur Jimmy Mohamed, pour votre réponse. D'ailleurs, le paracétamol a été rationalisé depuis quelques jours maintenant. Les gens achetaient jusqu'à 8 boîtes de paracétamol, donc une vente restreinte en pharmacie interdite également sur Internet. Merci, docteur. On se retrouve demain ici même, en tout cas, depuis chez vous. Je ne sais pas où vous êtes installé, vous.